Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bonsoir, bonsoir, excusez-nous de vous déranger, vous écoutez l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Et pour ce premier épisode de PO, on vous amène à Calgary, au Canada, en 88, où on parlera des Jeux Olympiques d'hiver et surtout de l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque, devenue célèbre grâce au film Rasta Rocket, sorti en 1993. Et pour m'accompagner dans cette formidable aventure, j'ai l'immense plaisir de recevoir ici Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour, plaisir partagé, Mickaël.
Bonjour Younes.
Bonjour Mickaël.
Bonjour Olivier. Bonjour à vous, je suis très content de vous recevoir. Et avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va s'écouter une petite archive.
Un coup de zig, un coup de zag. Il y a une chose qu'il faut savoir, on ne se casse pas la gueule en bobsleigh. Non, on se l'éclate. Alors, qui est volontaire ?
On cherche un sponsor qui veuille financer l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque.
Ils rêvaient de concourir aux Jeux Olympiques. Mais ils ont choisi un sport dont ils ignorent tout.
Extra !
Et qui se pratique sous des cieux peu cléments.
Il faut pas oublier une chose, le truc vital dans ce sport, c'est la résistance au froid.
L'histoire véridique de quatre athlètes pas comme les autres.
Je vais te botter le cul, moi, ça va pas très bien.
Si tu veux, moi, je te dessinerai sur le crâne, comme ça t'auras vraiment l'air d'un gros cul.
Qui n'étaient pas du tout préparés à ce qu'ils allaient devoir affronter.
Il fait un temps magnifique à Calgary. Et il paraît que ça ne fait que commencer.
Attends, c'est une blague ou quoi?
J'arrive pas à enfiler mon casque.
Perfect one. Vous
devriez monter les roulettes de chaque côté, ce serait plus prudent.
Laisse le bobsleigh à ceux qui en ont.
Je serai pas toujours là pour t'aider.
Vous n'avez rien à foutre ici, les Jamaïcains.
La plupart des gens ont peur de tout ce qui est différent.
Allez, 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 ouais.
Mais ils ont su donner...
Tu espères réellement que les Jamaïcains seront qualifiés?
Le meilleur d'eux-mêmes.
Non seulement ils vont se qualifier, mais leur performance en est pas plus d'un.
Question de fierté. Question de force.
Et désormais, c'est le monde entier qui est avec eux.
À la réalisation de nos rêves.
À nos rêves.
Je suis d'une humeur olympique.
Une histoire dédiée à ceux qui ont l'audace de sortir du rang.
Je n'ai nullement l'intention d'oublier qui je suis ni d'où je viens.
Et à tous ceux qui ont le courage d'imposer leurs rêves.
Comment est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait?
Quand tu vois la ligne d'arrivée,
fais d'où est-ce qu'ils sortent?
C'est que c'est bon.
Rasta Rocket.
Comment on va baptiser notre Bob?
Taloula.
C'est un prénom qui sort du trottoir.
Arrêtez, c'est le nom de ma mère.
Allez, ah, bien, c'est bien,
c'est bien. C'est un prénom.
Alors vous avez reconnu évidemment la bande-annonce de Rasta Rocket, hein, le film qu'on a revu pour l'occasion évidemment.
J'ai encore pleuré.
Et moi alors?
Qui ne pleure pas?
Bah moi. Ouais. Si, j'ai pleuré quand même. Ça m'émeut beaucoup ce film.
Oui.
On va en parler. Quelques mots sur le film pour commencer. Donc c'est un film qui est sorti en 93 aux États-Unis, sorti en 94 en France.
Ouais, tout à fait.
Donc en fait, approximativement 5 ans après les faits, ce qui est assez court hein, finalement. C'est un film produit par les studios Disney. C'est un film qui a rapporté presque 69 millions de dollars aux États-Unis et 86 millions à l'international. C'est quand même un gros carton.
Cumulé 150 millions.
Alors, ouais. J'ai regardé les box-office France 94. Il arrive 11e, sachant qu'il y a pléthore de films de mastodontes, en fait, puisqu'il y a Le Roi Lion, un Indien dans la ville, qui est un vrai mastodonte. Il y a 4 mariages à l'enterrement, Madame Doubtfire, Forrest Gump, The Mask, Léon, Pulp Fiction, ouais. Philadelphie, et en fait, Rasta Rocket est juste derrière la liste de Schindler.
Ouais, le talent.
Ça raconte la même chose, presque, de toute façon.
C'est presque la même histoire. C'est une sorte de remake.
Qu'est-ce que vous pensez du film, messieurs, déjà, pour commencer? Ça vous a de plus de revoir le film? Ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vu.
Moi, je l'avais pas revu depuis le cinéma. Alors, figure-toi,
Tu l'avais vu au cinéma. Ah, il faut préciser que tu laisses à 85 ans. Hein.
85 et demi. Ouais. depuis le cinéma et je crois l'avoir juste croisé comme ça à la télévision, sans pour autant avoir terminé le visionnage.
Ah ouais, t'as pas vu la scène mythique de la fin?
Non, parce que quand j'ai vu ça à la télévision, j'ai zappé et puis j'ai pas forcément resté dessus. Mm-hmm. Mais j'étais très content de le revoir.
T'as plu?
Ça m'a beaucoup plu. D'accord. En fait, j'ai pas été déçu comme beaucoup de films qui sont des souvenirs.
Ah oui, c'est vrai, ouais, que ça arrive souvent. Et toi, Olivier, ouais, alors, t'en pensais quoi?
Tu sais, ça fait partie des films que tu regardes en VF. Parce que tu l'as vu en VF.
Alors, figure-toi, moi, je l'ai revu. Alors, je l'avais revu en VF pour 2 heures de perdu, parce qu'on a fait un épisode dessus, que je vous invite à écouter d'ailleurs, les chers auditeurs. Ouais. Et j'ai voulu le revoir en VO cette fois-ci. Et je trouve que la VO est bien. Enfin, alors, la VF est bien, parce que les films des années 90...
En VO, on dirait, c'est presque la voix des vrais acteurs.
Oui.
Ah oui, c'est dingue.
Ah oui, c'est ça qui est fou. C'est, ouais, ça, ils sont fou. Vachement bien doublés en VO.
Oui. Plus qu'en VF.
Et ils sont parfaits, ouais. Ils sont parfaits. Mais pour moi, c'est un peu un acte obligatoire que de le regarder en VF. Alors voilà.
Oui, oui, non, mais ça
j'ai pas tenté l'expérience.
Les classiques des années 90.
Ça renforce la Madeleine de Proust, tu vois. Ça,
oui, bien sûr.
D'ailleurs, j'ai mangé un paquet de Madeleine en même temps.
Ouais. De Proust aussi.
Moi, j'ai lu Proust en même temps. Ce qui fait que j'ai pas trop suivi le.
Et alors, donc du coup. Est-ce que quelqu'un peut me raconter un peu le film? Parce que le but de ce podcast, ça va être un peu de partager la réalité de la fiction. Est-ce qu'il y en a un qui veut parler du film en lui-même?
Je peux me lancer, si vous voulez.
Vas-y.
Vous voulez?
Vas-y.
Ok. Bah oui, je te vas-y. Autorise.
Olivier veut. Ouais.
J'ai envie.
En fait, c'est des sprinteurs jamaïcains,
voilà,
qui participent aux sélections et qui, sur un coup du sort, se retrouvent éliminés. Ce coup du sort, c'est tout simplement un autre sprinteur qui se casse la figure et qui les emmène et qui les entraîne un petit peu dans sa chute. Ils sont favoris. On comprend qu'ils ont tout pour gagner. Ils ont tout pour défendre leur chance au JO d'été.
Ah oui, sauf que...
Sauf que arrive l'impensable. Ils n'y vont pas et ils vont devoir se faire à l'idée de ne jamais participer à des Jeux Olympiques.
Et voilà. Mais ils vont trouver un petit subterfuge,
tout
qui est de
fait.
Monter une équipe de bobsleigh.
Exactement, l'impensable.
Donc, voilà, et ils montent une équipe de bobsleigh, donc autant dire que dans la réalité, ça se passe absolument pas comme ça.
Non.
Hein, puisque c'est pas du tout des sprinteurs.
Alors, ils sont pas tous sprinteurs, il y a 3 sprinteurs.
Tout oui, oui, il y a un sprinteur.
Merci. Tout à fait, ouais.
Qui est un champion de pushcard, on va revenir dessus.
Alors, on va revenir sur le pushcard.
Alors, on va revenir sur le pushcard. On va parler de la vraie histoire de cette équipe de Jamaïque. On va rentrer un petit peu dans le détail.
Pushcard n'attend pas un footballeur hongrois.
Oui. Avant de revenir sur l'histoire de la Jamaïque, on va parler un petit peu des JO d'hiver en général. Et je crois qu'Olivier, tu as quelques petites choses à nous dire là-dessus.
Oui, oui, bien sûr. Les JO d'hiver, donc là, je voulais faire une blague qui aurait été les JO d'hiver et variés, mais je vous la garde pour la semaine prochaine. Les JO d'hiver, voilà, qui est donc un spin-off, on va dire, des JO d'été. Oui. Les JO d'été qui ont été la version moderne des JO d'été.
J'ai jamais vu ça comme ça, ouais.
Qui date de 1896, en fait, les Jeux d'été.
Ah oui,
c'est remis au goût du jour. En fait, c'était il y a très longtemps avec, à Olympie, sur le site Olympie en Grèce.
D'accord.
C'était remis au goût du jour par Pierre de Coubertin, un Français.
Qui a donné son nom à tous les gymnases de France.
Qui a d'abord créé oui, Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer, sport amateur avant tout.
Bah là, pour le coup, on est en plein dedans avec cette équipe.
À mon avis, il se retourne bien dans sa tombe maintenant, Pierre de Coubertin. En tout cas, 1896, début des JO. Avant ça, 1894, création par ce même Pierre de Coubertin du CIO. Voilà.
Ah oui, ah,
il a tout fait.
Il a tout fait.
Et la Tour Eiffel, c'est pas lui, non?
C'est toujours des Français. Hein, donc, c'est toujours des Français parce que, pour la petite histoire, Jules Rimet a créé la Coupe du Monde de football.
C'est vrai que c'est tout le temps les Français à chaque fois.
Et en fait, donc, les JO d'été 1896, les JO d'hiver 1924, les premiers JO d'hiver.
D'accord.
Où ça?
En France.
À Chamonix.
Tout à fait.
Donc, alors,
à l'époque, on avait une excellente équipe de hockey sur glace, d'ailleurs.
Ah,
on était très fort à l'époque.
D'ailleurs, ça me rend complètement fou, parce qu'on dit les Français obsédés, les Français qui puent, les Français qui. Voilà, on entend des vertes et des parfums. On dit les Français se lavent pas, mais ça, c'est depuis Louis XIV.
Hein.
Ils se parfument, ils se lavent pas.
À
chaque fois. Moi, je me lave pas, donc du coup, forcément, j'entends ça autour de moi.
Ce qui fait que. D'ailleurs, je peux ouvrir la fenêtre, ça dérange pas, non?
Oui, oui, vas-y. Surtout maintenant. Oui.
Parce qu'il a un continent, en plus, Olivier, il faut
oui, je n'ai pas 96 ans, mais je suis un continent. JO d'hiver, donc 1924, Chamonix. Donc encore les Français. Merci aussi. On n'est pas là pour faire la popote, il n'y a personne.
On ne peut pas dire qu'on fasse de la figuration. Hein,
non.
Tout ce qui est sport, sport en tout genre.
Donc, non.
Donc 1924, le dérivé des JO d'été, les JO d'hiver. Donc c'est tous les 4 ans et c'est tous les 2 ans entre les JO d'été, 2 ans, JO d'hiver, 2 ans, JO d'été.
Alors là, je t'arrête. Je crois, et d'ailleurs, le film en parle parce que. On s'est posé la question, quand on a fait 2 heures de perdu, on s'est dit qu'il y avait une incohérence parce qu'on on s'est dit, en fait, les JO d'été et les JO d'hiver alternent, en fait, de 2 ans en 2 ans.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas, en fait, c'est le cas depuis 1992. Il y a un auditeur qui nous l'a fait remarquer.
Ah, c'est récent, ça.
Ouais. Depuis 1992. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu 2 JO d'hiver à 2 ans d'intervalle seulement entre
88 et 89.
Entre Albertville. Non, c'est entre 92 et 94, entre Albertville, et Lillehammer.
Tout à fait.
Ah,
et c'est en fait, ils ont avancé les JO d'hiver de 2 ans pour pouvoir alterner entre JO d'hiver et JO d'été.
Ah, oui, donc ils sont.
Là-dessus, pour le coup, le film est raconté.
Corriger un calendrier.
Depuis 92.
Depuis 92.
Ah, mais ouais. Albertville.
Exactement. C'est aussi récent que ça. D'accord,
en,
ok.
Depuis Albertville, en France encore.
Donc depuis 92.
Il y a un truc avec la France.
Finalement, les JO d'hiver ont eu lieu en même temps que les JO d'été de Barcelone.
Ah oui, en... exactement.
Tout à fait, d'accord, oui, oui. Ok, oui. D'accord.
Et c'est à partir de, donc, du coup, des JO d'été de 96.
Ok.
Qu'il y a eu l'alternance.
J'ai plus suivi depuis que tu.
Que je.
Que tu as parlé de chiffres, ça y est, c'est fini, tu m'as perdu.
Mais depuis que tu t'es coupé avec de la bière, il faut quand même le dire.
Oui, on peut parler de ce coupage de bière de Younes qui s'est coupé avec
Younes. C'est coupé avec de la bière.
En déballant un carton, un pack de bière.
Ça, ouais, ça arrive.
C'était horrible.
Bref, la boucherie.
Revenons au mouton.
Du coup, c'est les Jeux Nordiques, en fait, à la base, avant.
Ah oui, d'accord.
Donc il y avait les Jeux Nordiques, donc a priori, les Jeux Nordiques, j'ai pas vérifié ma source, mais je suis presque sûr que ça se passait dans le Nord.
Okay. Ouais, vérifie quand même.
Ouais, voilà.
Je pense que...
Et c'était en 1901. Et ensuite, du coup, ça a eu tellement de succès. Et
d'accord.
En plus, ils ont voulu détacher, ils ont voulu faire à la fois des jeux d'hiver, qui ne soient pas donc des jeux d'été, ils voulaient les détacher, devant le succès des Jeux Nordiques, qui sont devenus ensuite donc le fameux spin-off des Jeux d'été, mm-hmm. à partir de 1924.
D'accord.
Les sports.
Mais, ouais. Tu nous fais un exposé de TPE.
Oui,
ça dure 2 heures.
Là, vous voyez,
oui, est-ce qu'il a les graphiques? Parce que vous n'avez pas l'image, mais il a un paperboard, ouais, avec tous les graphiques.
Vous voyez sur cette courbe qui représente tous les jours de 1924, ouais. du 1er janvier.
Les autres infographies, d'ailleurs, qui est assez bien faite. Hein, je tiens à te féliciter. Hein.
Alors,
c'est vraiment très joli.
Une petite question. Quel est le pays? Moi, je me pose la question. Quel est le pays le plus titré des JO d'hiver?
Ah oui.
Alors là, c'est évidemment, c'est un pays nordique.
Ouais.
C'est le Vietnam. C'est la Norvège, évidemment.
C'est la Norvège.
Ah oui.
Je peux peut-être me trouver.
Ah, c'est marrant, j'aurais pas dit la Norvège.
303 médailles au total, dont 107 d'or.
Oui,
ah
d'accord.
Oui.
Donc, ah oui, c'est bon.
Ah, il rigole pas.
En même temps, il doit y avoir la Russie quand même pas très loin.
Et non.
Ah bon?
Ah oui.
Canada.
Alors,
on va essayer de les vider.
Ah oui,
c'est un super jeu.
Alors, allons-y. Allons-y.
Moi, je dirais Finlande.
Et non.
Ah, d'accord.
Les États-Unis.
Les États-Unis, c'est oui, mais. Alors là, figurez-vous, j'ai trouvé 2 sources, et ça, j'aimerais bien savoir s'il y a un auditeur qui nous le voilà.
Ouais,
2 sources qui sont un petit peu en discordance, c'est-à-dire les États-Unis et l'Allemagne. Donc il y en a un qui place les États-Unis d'abord deuxième,
oui.
Et l'Allemagne
oui,
troisième, et dans le reste des sources que j'ai eues, c'était d'abord l'Allemagne. Je pense que c'est l'Allemagne réunifiée.
Ah d'accord.
Ouais, donc, c'est ah oui, parce que
mais voilà. C'est ça que j'ai pensé.
Alors,
tout de suite.
Moi aussi, j'ai vu ce genre de stats, mais il y a une époque, effectivement, il y avait 2 équipes en Allemagne, parce qu'il y avait la RDA et la RFA, et pour le coup, ça donne 2 fois plus de chances de gagner les médailles.
L'unification des deux Allemagnes,
effectivement, l'Allemagne
crée une ouais. Un cumul.
Donc, c'est possible.
En gros, on va dire que l'Allemagne a gagné 267 médailles, dont 97 en or, et les États-Unis 282 médailles, dont 96 en or.
Oui, d'accord.
Donc en gros, les États-Unis sont quand même un peu plus forts, on va le dire, hein, mais ils ont gagné une médaille d'or en moins.
Est-ce qu'on peut faire un petit quiz? Est-ce qu'on peut faire un petit quiz?
Allez.
Quels sont l'ensemble des disciplines olympiques des JO d'hiver?
Ah.
Alors.
Regardez pas, moi je les ai sous les yeux, je suis désolé, je triche.
Ah bah ouais. Bon,
des disciplines, est-ce qu'on parle des disciplines? Parce que ça on peut y revenir aussi, des disciplines qui sont là depuis. Enfin, il y en a.
Ah, je parle de celles qui sont
régulières,
actuellement.
Quoi. Les titulaires.
Ah, actuellement. C'est-à-dire au prochain JO d'hiver, quels
sont
les.
Ah oui, je dirais le patinage artistique.
Patinage artistique, c'est une bonne réponse.
Le bobsleigh.
Oui, effectivement.
Bah, spoiler, on va en parler
un petit peu.
Ok. Hockey sur glace.
Le hockey sur glace,
ouais.
Évidemment.
Le ski alpin.
Le ski alpin, tout à fait.
Ah, d'accord, ouais, d'accord.
T'étais pas loin avec saut aussi.
Je vais dire le triathlon.
Alors, en fait, il y a biathlon. Bon, je vais le dire.
Non, le biathlon, c'est faux.
Ah.
Ah, bah si, il y a le biathlon.
Alors. En fait, le biathlon, avant, ça s'appelait la patrouille militaire, figure-toi.
Ah, mais c'est vrai.
Ah oui,
ah, oui mais ah, les oui. origines du biathlon,
En 1924, le biathlon s'appelait, et peut-être après, mais en tout cas, en 1924, le biathlon s'appelait la patrouille militaire. Donc, je sais pas
si c'est... Voilà. Comme mais quoi, c'est un sport, le biathlon, c'est un sport
de
fou.
J'adore.
Pas mal de choses qui viennent des militaires.
À l'époque, ils tuaient des prisonniers.
Ils n'étaient
pas sur les cibles.
Ouais.
Et avant, je pense que jusqu'à 1960, le biathlon, en tout cas, son nom est, depuis 1960, est une discipline olympique. Depuis 1960, donc je pense
d'accord.
que ça s'appelait d'accord, la patrouille militaire.
Alors, je vais vous faire juste une petite énumération. Il y a biathlon, le bobsleigh, combiné nordique, le patinage militaire. Le patinage militaire. Excusez-moi.
La boxe sur glace.
Alors, le basket sur glace, c'est super.
Non, mais le curling, bien sûr.
Le curling.
Curling, ouais.
Hockey sur glace, luge, patinage artistique, patinage de vitesse.
Oui.
Patinage de vitesse sur piste courte.
Oui,
ah, oui.
C'est une piste de 65 cm.
Non.
Mais non.
Si, c'est une compétition qui dure en moyenne entre 2 et 3 secondes.
Voilà, c'est passionnant.
D'accord, ok.
Il y a le saut à ski, donc tu y étais presque. Alors, il y en a un, je sais pas ce que c'est, le skeleton. Qu'est-ce que
ah,
c'est
le skeleton, c'est comme la luge.
C'est comme la luge.
C'est comme la luge, sauf que tu as la tête devant.
Ah oui, voilà. Effectivement, je vois
tu
le petit schéma.
Comme une fusée, la tête la première.
Voilà. Alors, il y a le ski acrobatique. Dans un toboggan, voilà. Il y a le ski acrobatique. Alors, c'est marrant parce qu'il a la tête à l'envers sur mon petit Gugus. Oui. Le ski alpin, le
sur
ski
petit Gugus.
Alors, petit Gugus.
Et maintenant, il y a le snowboard.
Il y a le snowboard, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est, petit Gugus, Michel?
Le ski de fond, tu l'as dit.
En fait, non, mais c'est des images. J'ai fait un screenshot avec tous les sports d'hiver. Il y a des petites iconographies qui illustrent.
Non, parce que ce qui est drôle, c'est donc ces sports-là aussi les sports de démonstration. Parce que dans chaque JO, il y a donc des sports de démonstration. Donc, selon le pays représenté, selon là où ça se passe, il y a les sports de démonstration. Donc à Albertville en 92, par exemple, il y a ce qu'on appelle le ski balai. Donc je vous invite à taper ski balai.
Est-ce que c'est la vidéo que tu nous envoies.
Voilà, donc, oui, voilà. Donc c'est des gens qui font un balai, mais sauf qu'ils ont des skis.
Mais c'est vachement bien. Enfin, moi j'ai vu, c'est chouette.
Non, mais il y a toutes sortes de skis, il y a toutes les marques. C'est comme le ski, les JO d'hiver, pour moi, c'est exactement comme Martine à la plage. C'est le ski à la plage, le ski à cheval, le ski avec une carabine, le ski dans un canapé, le ski.
À la boxe.
Alors j'ai une petite question quand même, messieurs. Les prochains JO d'hiver, donc qui ont lieu en Corée,
Pyeongchang.
Oui. Pyeongchang. Est-ce que vous allez regarder les JO d'hiver? Est-ce que ça vous intéresse les JO d'hiver?
Absolument pas, ça me fait chier.
Ça va, toi tu regardes pas?
Ouais, je vais regarder un sport d'équipe, le hockey sur glace. Ouais,
parce que c'est la bagarre. Sur glace. On adore le hockey
parce que
sur glace.
Mais parce que aussi
on a vibré à Bercy quand même.
Ouais, voilà, on a été voir ça à Bercy et puis on a vibré et puis j'ai quand même envie de voir un choc type Russie États-Unis quoi.
Ouais, ça risque de se produire, c'est possible. Hein.
Ouais.
Alors en plus, il faut quand même préciser qu'avec le décalage horaire, les épreuves ont lieu la nuit. Alors je crois que c'est de minuit à 13h.
Ah bon, c'est bon. Alors je vais regarder.
Oui, tu vas mettre ton réveil.
Oui, bien sûr,
pour regarder le skeleton.
Le skeleton. Est-ce que la France a de sérieuses chances de réunir quelques médailles ou est-ce que
bah, Fourcade, je pense.
Alors j'ai vu un site statistique qui s'était presque pas trompé il y a 4 ans avant, qui avait pronostiqué 14 médailles pour la France. La France en avait 15.
Ok.
Qui a pronostiqué là 20 médailles pour la France.
D'accord.
Avec un carton plein pour Jackie Fourcade là.
Bah, d'accord.
Et donc 20 médailles, ce qui sera un record. Le record, d'accord, c'était il y a 4 ans.
C'est bien Martin Fourcade.
J'avoue que je suis pas au même des sports d'hiver et du coup je sais pas trop. Alors je sais qu'en hockey sur glace on a aucune chance de médaille puisqu'on participe pas au JO.
Depuis que Domenech est parti, on a déjà plus de chance. Hein.
On a un couple de patinage artistique qui défend crânement ses chances.
Mais le truc c'est que dès que tu parles de jeux d'hiver, il y a Candeloro. Et ça c'est quand même.
Enfin, rien que pour Candeloro, je pense que tu vas regarder.
Oh c'est chaud.
Oh j'adore Candeloro.
Oh là 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 là. Mais si, on voit rien. Il fait
vraiment empire.
Ah moi j'aime bien.
C'est vrai que tu ressembles un peu à Candeloro, hein. T'as un petit côté.
J'ai mis mes patins ce soir.
Mais c'est ton pantalon Lucky Luke aussi qui fait le que t'as mis ce soir.
Toute
alors,
la différence.
Bon, on parle des JO d'hiver. On va surtout parler d'une discipline en particulier. On va parler du bobsleigh. Et là, je crois que Younes, tu as 2-3 trucs à nous dire sur cette discipline.
Bah ouais, en fait, elle a commencé tout simplement avec les JO d'hiver modernes. Donc comme tu nous as présenté, Olivier, commence à partir de 1924. Et c'est aussi simple que ça. En fait, on descend un toboggan glacé. C'est ça le principe en luge. Ou en traîneau, parce que le mot sleigh de bobsleigh veut dire tout simplement traîneau. Donc pour les gens qui ne parlent pas l'anglais, je leur fais une petite traduction et bob veut dire osciller. Donc osciller en traîneau, c'est exactement
ça. Tu fais carrément l'étymologie, c'est beau.
Ah ouais, bah c'est important.
Hein. Oui, t'as raison.
C'est un métier, on bosse, alors il faut le prouver aux autres.
Oui.
Donc on descend et on descend très vite. En fait, on descend très vite au point d'atteindre 5G. Donc on est sur une
5G, tu veux dire
une force gravitationnelle. Donc
ah oui, ça n'a rien à voir avec
le point
sur téléphone.
Le point 5G. Quoi.
Le point 5G, vraiment, exactement. Voilà, c'est le point 5G, c'est que tu fais 5 fois ton poids. Voilà.
D'accord.
5 fois ton poids.
Alors, du coup, un bob peut aller à quelle vitesse
Alors,
en moyenne ou en pointe
on calcule en moyenne entre 130 et 145.
Ah,
et le record de vitesse, bon, je m'attendais à beaucoup plus. Hein, je vous avouerai que quand j'ai commencé à faire
1750 km.
mon enquête, je m'attendais à des vitesses de pointe de 300 km/h.
Ouais.
En fait, on atteint à peine 152 km/h
pour le
record du monde.
Entre nous, les gars, je veux dire, je vous ai propulsé sur une piste enneigée à 150 km/h. Je pense qu'on fait tous un peu de notre
faute. Mais c'est sûr, mais c'est beaucoup plus impressionnant à voir, notamment en caméra embarquée. Aujourd'hui, on a des caméras modernes, sportives. On ne va pas citer la marque.
Ah, c'est beau la technologie.
C'est très beau, ouais. Donc, on arrive à voir un minimum, quelles sont les sensations du pilote, notamment, qui est quasiment le seul à lever les yeux sur la piste pour pouvoir anticiper un peu les virages. Alors ils connaissent la piste par cœur.
Les autres doivent en fait choper le pompon, c'est comme les manèges, ils ont un tour gratuit.
C'est un peu ça, voilà.
Du coup,
ils atteignent 152,68 et c'est une équipe lettonne, donc voilà, qui a atteint ce record.
D'accord.
Et en moyenne, tout se joue sur les premiers 50 mètres. Le sprint, notamment.
Le sprint.
Voilà.
C'est d'où l'idée sprint. De. Oui, bah, d'ailleurs, on
va en parler. D'où l'idée.
Et là, on va essayer de retomber sur nos pattes, alors, notamment voilà. Avec nos sprinteurs jamaïcains.
Alors, encore une petite question sur le bobsleigh. Quel est le pays le plus titré dans cette discipline?
Ah bah je sais pas.
Alors je crois il me semble que c'est la Suisse parce que je crois que c'est un sport qui est né en Suisse.
Ouais.
Il y a une grosse tradition de bobsleigh et en fait, ce qui est particulier avec ce sport, c'est qu'il est pratiqué presque nulle part parce qu'il y a très peu de pistes de bobsleigh qui existent.
Ouais.
Et je crois que la Suisse en a pas mal, donc
je confirme, c'est la Suisse.
C'est la Suisse, il semble bien. Alors, on va reparler un peu de bobsleigh et de vitesse puisque c'est un petit peu l'idée qu'a traversé un monsieur en fait américain. C'est lui qui a eu l'idée en fait. Voilà, l'idée de fonder une équipe de bobsleigh en Jamaïque, c'est un monsieur qui s'appelle George Barney Fitch, qui est américain, qui est en fait américain, qui habitait en Jamaïque parce qu'il a été, il me semble, sous Reagan dans les années 80, attaché commercial à l'ambassade des États-Unis à Kingston. Et il a eu, il est venu à l'été 87, parce qu'après, apparemment, il était transféré à Paris. Il est venu à l'été 87 pour le mariage d'un ami. Et c'est là qu'il a eu l'idée de monter une équipe de bobsleigh en Jamaïque, en fait. Et il a eu cette idée, alors ça m'a fait
il
un peu rire.
Il a perdu un pari. Hein,
il a eu cette idée lors du mariage, en fait.
Parce qu'il était bourré.
Parce qu'il était bourré, voilà. Et en fait, ça me rappelle que moi, j'ai déjà vu Younes à un mariage. Je peux dire que mon pote, il est allé loin. Il aurait pu fonder une équipe de bobsleigh aussi.
C'était avant qu'il se blesse avec le champagne.
C'est fini. Avec le bouchon de la bière. Et donc, il a eu cette idée avec un de ses collègues. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. En fait, ils étaient deux. C'est Mahoney, je crois, qui s'appelait.
Mahoney, le sergent Mahoney.
et du coup,
William Mahoney.
Mahoney, exactement. Ils ont eu cette idée en voyant une discipline qui est traditionnelle en Jamaïque, on en parlait tout à l'heure, c'est le push car derby. C'est quoi le push car derby, messieurs?
Je sais pas si vous connaissez les caisses à savon.
C'est un peu ça. Hein.
Voilà, donc c'est tout simplement des caisses avec des roues et on descend une pente assez rapidement et on est souvent poussé par un sprinter et on a un petit pilote qui est souvent joué par un enfant tout simplement et le premier arrivé en bas de la côte et a gagné.
Alors dans la réalité, je suis pas sûr que ce soit des enfants parce qu'à mon avis ça va très vite. Et il doit y avoir des accidents. Alors en fait, le push cart, c'est un chariot qui est monté, c'est un chariot en bois en fait qui est monté sur roue et qui est utilisé sur les marchés pour transporter les marchandises.
C'est ça, pour les courses, pour les courses ou pour les transports. Et ils ont eu l'idée d'en faire un.
Voilà, c'est un sport de fortune et qui est devenu une discipline à part entière.
Je crois que c'est la tête devant, c'est comme le skeleton.
Ah oui.
Mais non, mais je crois que c'est la tête devant.
Tout à fait, ouais, c'est dangereux comme le skeleton.
Ah ouais. Parce qu'il me semble qu'il y a une espèce de volant en fait sur le push cart qui permet de diriger du coup le.
Alors que le skeleton, il y a pas de volant.
Il y a pas de volant dans le skeleton.
Non, pas dans le skeleton.
Mais il y a quoi dans ce skeleton?
Qu'est-ce que c'est que ce squeletton?
Un squeletton, c'est un type qui est allongé sur le ventre, sur une sorte de petite patinette et avec son corps en oscillant, notamment en bobant, comme on dit, et ben, il donne des impulsions pour pouvoir glisser aussi vite que possible, quoi. Je n'en sais pas plus.
D'accord, bon, très bien. Alors, du coup, on est déjà très loin de la version de Rasta Rocket.
Même
parce que
si
dans
ça...
Rasta Rocket. Vas-y, je t'en prie.
Non, mais même si pour le coup, on va parler du vrai, faux, de ce qui se passe et on va essayer de décortiquer ça ensemble, mais c'est vrai que pour le coup, il y a cette idée de voiture, de petite voiture dans le film.
Ah, dans la Star Rocket, oui.
Et justement, le sprinter a l'idée de penser au bobsleigh en pensant à cette petite voiture, en pensant à Rastaquer qui fait sa petite
sa petite voiture de fortune.
Il l'appelle Rastaquer.
Il a l'idée, oui, il a l'idée comme Johnny. Oui.
100K.
Sans cas, exactement.
Sans cas, ouais.
Alors, en fait, du coup, on est très très loin de la version de Rasta Rocket où c'est les sprinteurs jamaïcains en fait qui prennent l'initiative de fonder une histoire de bobsleigh.
Ouais, non, c'est bien romancé.
Voilà, c'est bien romancé. Et à ce propos, d'ailleurs, j'ai un petit extrait qui est assez intéressant.
C'était en quelque sorte un défi. J'étais en Jamaïque pour le mariage d'un ami. On parlait sport. On discutait des Jeux Olympiques d'été de Séoul qui approchaient et on se disait que la Jamaïque allait sûrement empocher plein de médailles. Plus d'ailleurs que n'importe quel autre pays si l'on mesure le nombre de médailles par habitant. Et puis on s'est dit, la Jamaïque n'a jamais participé aux Jeux Olympiques d'hiver. Donc le défi, c'était de les faire participer aux Jeux d'hiver tout en étant compétitif. Discipline, ce fut le bobsleigh car c'est ce qui correspond le mieux à ce qui fait la particularité des athlètes jamaïcains, la vitesse. La moitié de la course se décide sur la vitesse à laquelle vous pouvez pousser cet objet de 250 kg. C'est la vitesse pure, et ça, c'est la Jamaïque. Pour Hollywood, ça n'a pas d'importance que la fiction colle à la réalité. Ils veulent juste faire de l'argent. À l'évidence, ils ont décidé que le film serait plus populaire si l'idée de participer venait des Jamaïcains. Si ce sont eux qui partent à la recherche d'un coach, si ce sont eux qui lèvent les fonds nécessaires. If they're the ones that go out and raise the money, them down to Jamaica to do a piece
Voilà, donc c'était une interview de George Fitch qui a été donnée. J'ai craché. C'était une interview de Fitch qui a été donnée en 2014, quelques temps avant sa mort, parce qu'en fait il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort en 2014 d'un cancer. Non. Vous ne le saviez pas, je suis désolé.
Ah, mais là, mais
j'arrête cette émission.
Non, bon, on va arrêter. On va arrêter ce podcast.
Allez. C'est pas possible.
Au revoir.
Au revoir. Et du coup.
Le pauvre.
Du coup, et donc c'est intéressant effectivement de voir le point de vue qu'il a sur Asta Rocket.
Ouais, mais ça correspond un peu à la description de ce qui est l'identité de ce sport. Hein. C'est le sprint, beaucoup le sprint.
Exactement. En fait, ouais. C'est l'idée qu'il a eue. Il s'est dit, mais en fait, ce sport, c'est le sprint. Et effectivement, je suis sûr, il s'est dit, je suis sûr que les Jamaïcains peuvent.
En tout cas, s'ils ont une petite chance de ramener une médaille aux JO d'hiver, ça sera uniquement.
Plutôt en bobsleigh. Plutôt qu'en skeleton.
Skeleton ou en patinage artistique.
Moi, je vais regarder tout le skeleton. Pendant les jeux, je vais regarder tout le skeleton.
Ah, tu vas mettre ton réveil.
Oui.
Alors, dans un premier temps, comment il va faire pour recruter ses les bobsleigh.
Dans la réalité,
bobbers, on dit les bobbers. Hein.
Les bobbers, ouais, les bobbers, ouais, tout à fait. Alors, dans la réalité ou dans la fiction de Walt Disney.
Alors en fait, oui. Alors dans la fiction de Walt Disney, oui. On va y revenir. En fait, je vais vous dire. Dans un premier temps, il va aller voir des vrais athlètes jamaïcains, oui. Sprinteurs. Ça va pas du tout marcher, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils vont raconte Olivier.
Oui, non, ça va pas du tout marcher, ils vont pas du tout accepter.
Ils ont peur de la blessure, ils savent pas ce que c'est.
Peur en plus quand ils se renseignent un tout petit peu sur le bobsleigh, ils se rendent compte que c'est très dangereux.
Tout à fait,
exactement,
ouais.
Pour leur
exactement.
Intégrité
le
physique,
risque,
ils ont trop peur,
ouais.
Donc personne ne veut.
Exactement. Alors, que va faire Fitch en fait,
il va faire un tarot.
Il va faire un tirage au sort en fait. Il va se tourner vers l'armée, il a un de ses potes qui est colonel dans l'armée jamaïcaine qui s'appelle Kenny Barnes. Vous savez qui c'est Kenny Barnes?
Non.
C'est le père d'un footballeur.
Ah.
Qui a joué à Liverpool. Alors, je sais, il y a longtemps quand même. Hein. John Barnes.
Ah oui.
D'accord.
Bref, qui est né d'ailleurs à Kingston. Et en fait, son pote, le colonel Kenny Barnes, il va lui dire, mais puisque tu n'arrives pas à recruter des athlètes, recrute dans l'armée directement.
Oui.
Donc, ils vont passer des annonces.
Ok.
Ils vont passer diffuser carrément des spots de pub à la télé. Pour dire qu'ils cherchent des athlètes pour les JO d'hiver.
À la télé,
des
à films. Ça,
ouais, okay. Pour les JO d'hiver qui ont lieu, il faut quand même le préciser, 6 mois après. Parce que, en gros, il a l'idée de monter une équipe de bobsleigh au mois d'août 87 et les JO ont lieu au mois de février 88. Donc, il y a 6 mois pour préparer une équipe. Et donc, ils vont organiser des stages de sélection devant des volontaires de l'armée, en fait. Et là, pour le coup, le film est plutôt raccord avec la réalité. Il y a cette fameuse scène.
Ouais.
Je vous propose de l'écouter.
Pour nous montrer à quoi ça ressemblait. Dans la vidéo, on voyait des accidents, parfois mortels. Le premier jour des épreuves, on était environ 60 personnes. Après la vidéo, on était plus que 20.
Bon, un peu de silence, s'il vous plaît. Belle assemblée. Pour deux vénards d'entre vous qui ne le savent pas encore, le départ pour les Jeux Olympiques, c'est ici et maintenant. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Erwin Blazer. Grand spécialiste incontesté du bobsleigh qui sera notre entraîneur. Sanka, moteur.
T'es en direct, dieu du stade.
Comme vous le constatez, un bobsleigh est un objet très simple.
Yeah, comme une idée.
Merci, merci beaucoup. Le principe de base, c'est de parcourir une piste glacée le plus vite possible, de haut en bas. On zigue, on zague, sur d'espèces d'énormes montagnes russes complètement verglacées.
La glace.
Ouh. Ouh. Ouh là. Ah ouais. J'oubliais de vous dire, un des rares inconvénients de ce sport, par ailleurs si plaisant, c'est la chute à grande vitesse. Ça, c'est très douloureux. Là, on touche au cœur du problème. C'est pas qu'on se casse la gueule en bobsleigh. Non, non, on se l'éclate.
On se l'éclate.
Aïe. Alors, qui est volontaire?
Bon, vous avez reconnu quel extrait c'est pour ceux qui ont vu le film récemment comme
eh
nous,
oui,
par exemple.
Oui, la salle s'est vidée et puis...
Donc, Donc on, apparemment ça c'est vraiment ce qui s'est passé. On l'a entendu avec l'interview au début. C'est un des membres de l'équipe de bobsleigh qui est revenu un peu sur l'aventure. Effectivement, ils ont diffusé un vieux film avec des chutes de bobsleigh parfois mortelles apparemment.
Ouais.
Et ça en a découragé plus d'un apparemment quoi.
Bah ouais, ouais, bah j'imagine.
Oui, il dit à un moment donné, je crois qu'ils étaient 60 dans la salle et ils sont plus que 20.
Enfin, il y en a la moitié, ouais, effectivement, ouais. Qui reviennent pour les épreuves. Ouais. Et donc après, ils passent des épreuves.
Ouais.
Des épreuves de force, des épreuves physiques. Et on finit par avoir 4.
Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils passent des épreuves dans un stade. Ils ne passent pas des épreuves où ils poussent des choses dans un stade, dans les gradins.
Forcément, en Jamaïque, complètement décontextualisé.
Ils font du sprint également.
Ils font des sprints, ils poussent des choses de plusieurs kilos pour voir s'ils sont capables. C'est improbable.
Oui, c'est dingue. Et en fait, du coup, il y a 4 élus. Est-ce que vous avez les noms des 4 élus? Les noms de la vraie équipe de bobsleigh de la Jamaïque.
Dudley Stokes,
ouais.
Michael White,
ouais.
Devon Harris,
ouais.
Et Caswell Allen.
Alors, en fait, l'équipe d'origine, c'est... Alors, on va surtout parler des 3 premiers, c'est-à-dire Devon Harris, Mike White et Dudley Stokes. Et le troisième, c'est Samuel Clayton. C'est le seul civil. Les 3 autres sont militaires. Alors, Devon Harris, il est lieutenant. C'est un spécialiste du 800 mètres, donc il va très vite.
Okay.
Michael White est sprinter, en fait. Il est dans l'armée également. Et Dudley Stokes, c'est le conducteur, en fait.
Le pilote.
Le pilote, voilà, le pilote. Merci, Younes. C'est le pilote du bobsleigh. Et lui,
merci, Younes.
Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, en fait, dans l'armée? Il n'a pas été recruté pour rien. Il est pilote d'hélicoptère.
D'accord.
Il est pilote d'hélicoptère et c'est pour ça qu'il a été recruté pour piloter le bobsleigh. Et donc le quatrième, Samuel Clayton, qui est un civil dans les chemins de fer. En fait, il participera pas aux épreuves au final. Et en fait, ce mec, vous savez ce qu'il est devenu maintenant, Samuel Clayton? Je suis tombé sur un article, ça m'a fait un peu marrer.
Ah ouais?
Il travaille pour le Sunska Festival de Pauillac, en Gironde.
Ah.
Et oui, et il s'occupe. Alors, je sais pas s'il s'occupe de la programmation, mais hein?
Oui, oui, d'accord. Très bien.
Quoi, tu veux l'appeler? Tu peux.
Oui, oui, je regarde si j'ai pas son contact. Parce que ça me décale, du coup.
C'est parce quelque chose.
Il faut savoir qu'Olivier fait du reggae, c'est sa passion.
Oui.
Du coup. Donc voilà, donc on a notre équipe.
Hey,
donc...
Mais il cherche en plus dans son téléphone.
Eya.
Ouais. Ah, tu fais bien. Lui.
Non, mais il y a Caswell Allen. C'est qui Caswell Allen? Mais vraiment, je pense qu'ils sont pas que 4. Il y a un remplaçant qui.
Ouais, alors en fait, apparemment, ils étaient même 6 à partir à Calgary.
Ah oui, tu prends une sécurité parce
que
en cas d'avarie, t'es éliminé.
Ah, les fameuses avaries.
En fait, en fait, les vrais. Enfin, il y en a plusieurs.
Comme Jérôme.
Qui vont même pas. Jérôme Savary, pour moi.
Jérôme Savary, c'est une.
Ah. Et arrêtez avec vos blagues, vous m'énervez. Et du coup, il y en a quand même plusieurs qui vont même pas concourir, en fait. Et donc, s'ensuit la préparation. Comment ça se passe, la préparation? Dites-moi.
L'entraînement ou le.
Oui, l'entraînement, la préparation au JO. Parce qu'en fait, il faut préciser un truc, c'est que ces mecs-là, ces 4 mecs, ils courent très vite, certes, mais ils ont jamais.
Ah oui.
Vu de leurs yeux un bobsleigh de leur vie.
Mais c'est surtout que c'est en dehors, ça c'est pas dit du tout dans le film, les gars sont militaires.
Donc, oui, ils sont militaires. Ouais.
Donc ils ont des entraînements militaires aussi en même temps, enfin
voilà.
En même temps que leurs entraînements de bobsleigh.
Ouais, ouais,
c'est
ouais.
Pas comme dans le film où ils.
Ouais, ils sont pas du tout professionnels. Oui, c'est qu'effectivement ils tapent leur journée d'entraînement militaire, enfin ils bossent quoi, tout simplement. Et le soir ils se tapent 3 heures d'entraînement.
Ils ont non seulement à peine 6 mois pour se préparer à une épreuve olympique.
Exactement.
Mais en plus de ça, ils ont pas du tout une vie dédiée en fait à l'entraînement et au sport comme pour n'importe quel sportif olympique.
Quand même sportifs.
Ils sont sportifs, mais ils n'ont jamais touché un bob.
Ils ont jamais touché un bob.
Ils le font 3 heures par-ci, 3 heures par-là,
oui, voilà.
En dehors de leur chef. Quoi.
Pour info, je crois qu'il y en a certains qui n'ont même jamais vu la neige.
Oui.
Ouais.
Donc, comment ils font pour se préparer?
Alors en fait, ils poussent un espèce de bobsleigh de fortune qui est fabriqué avec des bouts de ferraille, quoi. Et ils le poussent sur les pistes de la base militaire, en fait, où ils travaillent, quoi.
Voilà, pour essayer d'anticiper un petit peu les difficultés qu'ils vont rencontrer.
Alors, George Fitch leur paye immédiatement un voyage à Lake Placid.
Oui.
C'est où tu passes tes vacances, Younes?
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais,
ouais. C'est où, Lake
Placid? Pêche le crocodile là-bas.
Ouais, pêches le.
C'est aux États-Unis, tout simplement. Ouais.
C'est une des villes d'ailleurs qui a accueilli les Jeux d'hiver.
Ouais. Voilà, tout à fait. C'est l'une des villes où l'une des plus grandes pistes de bobsleigh, ouais, donc de toboggan, tout simplement.
Donc, en fait, ils les amènent.
Appelons ça un toboggan.
C'est au nord, quasiment à la frontière du Canada.
Ouais.
Et donc, ils vont à Lake Placid et ils voient. Pour la première fois, une piste de bobsleigh. Au moment où ils y vont, je crois que ça doit être septembre-octobre, il
n'y
a pas de neige encore. Donc ils voient en fait un espèce de tuyau de béton. Quoi.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pistes naturelles et puis des pistes réfrigérées. Les pistes naturelles, la première notamment, est une piste naturelle qui était en Suisse, donc sur les premiers JO d'hiver. Mmh. Et donc celle-ci n'a pas besoin d'être entretenue, donc il n'y a pas forcément besoin de moyens techniques pour pouvoir à un pays d'organiser les JO avec une piste de bobsleigh. Ouais. Certains pays qui ont organisé les JO d'hiver ont parfois construit des pistes de bobsleigh, ce qui a coûté très cher.
J'imagine surtout que ça ne doit pas être beaucoup utilisé.
Sauf, alors, en 1960... qui sont les JO d'hiver de je ne sais plus quelle ville.
Lillehammer
Squaw Valley. Donc c'est juste pour la petite histoire quand même. C'est donc les JO qui sont organisés là-bas aux États-Unis. C'est Disney qui décide de produire la cérémonie d'ouverture et de clôture de JO plutôt que de produire une pipe, enfin plutôt que de donner de l'argent par exemple pour une pipe, je pense qu'ils font une piste de bobsleigh. Ils se disent non, voilà. Donc il n'y a pas de piste de bobsleigh pendant ces JO-là. Il n'y a pas de bobsleigh pendant les premiers JO produits par Disney.
D'accord.
Disney qui va faire fortune ensuite sur un film sur le bobsleigh.
Exactement.
Ah, mais ils sont pas bien fous, hein, pas fous.
Bien vu. Alors après le voyage avec Placide, donc il y a un entraînement. Mm-hmm. Et ensuite, ils partent 6 semaines à Calgary, donc là où vont avoir lieu les JO,
ouais.
Où ils rencontrent les membres de la Fédération internationale de bobsleigh.
Mm-hmm.
Qui, dans un premier temps, refusent de leur donner l'agrément pour participer aux Jeux Olympiques.
Eh bien oui, les pauvres ne sont pas pris au sérieux, c'est ça ?
Eh bien, ils ne sont pas pris au sérieux. Et en fait, alors, on ne sait pas si c'est un prétexte. Alors, d'ailleurs, dans le film, il y a une scène comme ça. Hein,
oui.
Dans le film, c'est genre la veille des épreuves, alors que en fait, ça ne s'est pas du tout
passé. Dans le film, ils arrivent vraiment en catastrophe. Et puis, ils arrivent les mains dans les poches.
Ils n'ont jamais concouru. Enfin, il y a un truc.
Oui,
ils n'ont jamais concouru. Justement, en fait.
C'est un peu bizarre ça d'ailleurs parce qu'en fait ils arrivent un peu sans qualification alors que à la base nos sportifs sprinteurs se qualifient et montrent un peu la difficulté à accéder aux Jeux Olympiques et là t'arrives les mains dans les poches.
Dans la réalité ils ont fait une compétition, en fait ils ont été obligés de participer à une compétition internationale parce que la Fédération Internationale de Bobsleigh en fait exigeait avant de participer aux JO qui participent à une compétition internationale et donc ils partent en Autriche.
Ok, les pauvres.
Voilà. Et c'est Fitch lui-même qui finance le voyage pour $92,000. Donc, je savais qu'il avait du pognon, ce mec-là, hein, ça se voyait. Hein.
Ah, bah ouais, pour se lancer dans un projet comme ça.
Exactement.
C'est un sacré flambeur.
C'est lui qui finance le voyage et l'inscription à la compétition.
Il a dû vendre sa bagnole, c'est pas possible.
Y a pas une histoire aussi, de comment trouver le financement ?
Si. Alors, en fait, voilà. On va en parler, je te laisserai la parole à ce moment-là. Mais donc, ils partent en Autriche pour participer à Gognon, où ils arrivent, ils arrivent 35e sur 40 quand même.
D'accord.
Bon. Alors qu'ils
étaient. Ce qui est pas mal, mais peut mieux faire.
Oui, c'est vrai. Ouais, ils auraient pu faire un petit effort. Et ensuite, ils retournent en Jamaïque. Et effectivement, on va se poser la question du financement parce que Fitch, lui, il flambe, il donne du pognon. Mais au bout d'un moment, il en a plus du pognon.
À un
moment donné, je veux dire, tu claques par-ci, tu claques par-là, et puis
une
t'as
main
plus
devant,
rien.
Une main
derrière. Ça file.
Ça file à une vitesse, tu verrais. L'autre fois, j'ai gagné 100 balles au loto sportif en 2 jours, j'avais plus rien.
Forcément, l'argent mal acquis.
Et donc du coup effectivement il faut qu'ils financent un petit peu, surtout qu'à à l'époque il n'y a pas de fédération de bobsleigh en Jamaïque, donc il n'y a personne pour les financer. Voilà, exactement. Et du coup il faut redoubler d'imagination pour faire du pognon. Alors qu'est-ce qu'ils font?
Ils vendent pas du tout une voiture comme.
Ils font pas un financement participatif à la con comme on fait.
Ils roulent pas des pelles non plus.
Non, ils roulent pas des pelles.
Ils font de la com sur des ventes de produits dérivés en fait.
Ils vendent des t-shirts.
Ils vendent des sweatshirts. Ils vendent des polos.
Avec leur effigie.
Je peux en faire un autre. Non, Marcel peut-être.
Ouais.
Et ils demandent à Pierre Lemaire, qui est un publicitaire.
Alors c'est une magnifique transition parce que j'ai un petit extrait. Où on entend effectivement le créateur en fait des t-shirts est un Français et voilà ce qu'il a à dire sur le sujet.
Le gros problème c'était pour eux d'avoir le sled, d'avoir la luge parce que ça coûte cher. On a dit il faut qu'on fasse créer des choses pour faire entrer de l'argent. Donc mon associé a créé une chanson qui s'appelait Robin and the Bobbin, un reggae, et j'ai créé un t-shirt et sweatshirt. Voilà le sweatshirt officiel de Calgary 88. Alors on avait essayé de monter un petit peu les trucs avec la montagne, mais notre montagne à nous, elle est pas blanche, elle est verte ou elle est bleue, on a les Blue Mountain, les cocotiers quand même parce qu'on y tient, la mer avec les vagues et surtout notre sled qui avait les couleurs jamaïcaines qu'on retrouve ici, et avec un des bobsledders à qui on avait rajouté des locks pour avoir plus le côté, j'allais dire, couleur locale, c'est-à-dire le côté que les gens à l'étranger très souvent associent la Jamaïque avec les locks. Tout de suite après, dans les deux semaines qu'on suivit, on avait le même design avec Jamaica, the hottest thing on ice. Jamaican bobsled team, the hottest thing on ice. Ça représentait vraiment ces jeunes mecs pleins d'entrain et c'était des stars quand ils étaient à Calgary ou ailleurs. C'était vraiment, ils étaient les hottest thing à the Olympic Games in 88 Calgary.
Comment ils sont les sweat shorts?
Jaune.
Mais ils sont maxi canons.
Ouais.
Ils sont cool quand même les sweatshirts, non?
Ouais. Moi j'ai envie d'en avoir.
Alors, il faut préciser comme auditeurs, c'est un extrait d'un documentaire qui est passé sur Beansport, donc nous on l'a vu avec les images. Et clairement, les sweatshirts, tu les mets dans une boutique hipster à Paris, il y en a plus en 5 minutes, quoi.
Ouais, ça passe carrément.
Ouais, vraiment cool. Alors, ouais, très années 80, cool. Effectivement, on voit un triangle qui représente la montagne. Bah, toi en plus qui.
Ah oui, oui.
Tu les as trouvés bien.
Ils sont magnifiques, ouais. Effectivement. C'est cool.
Un peu trop jeune pour toi, non, Younes?
Non, ça va.
Toi, tu préfères les tricots, Younes, toi?
Ouais, les.
T'es plus tricot que sweatshirt.
Ouais, je suis plus tricot. Ouais, en vrai, ouais. La grosse maille. C'est ce que je préfère.
Tu tricotes d'ailleurs pour.
D'ailleurs, actuellement, là, les auditeurs ne le voient pas, mais je suis en train de te tricoter un pull.
Ça me fait plaisir, dis donc.
Il va faire froid.
Et donc, du coup, alors, voilà. Donc, il y a les t-shirts pour financer leur voyage. Ils ont. Enfin, je sais plus comment il s'appelle là, le français.
Pierre Lemaire.
En plus, il a un nom.
Le mec est français.
Il n'y a pas de
doute. Les Français, ils sont partout quand même.
Mais encore une fois, un Français. Non, mais voilà, on pue.
Il crée les JO, il crée la Coupe du Monde.
On ne fait pas que puer.
Tu penses que c'est sweatshirt puer du coup?
Non, je crois pas lui. Enfin, c'est lui.
Alors, du coup, ils sortent un tube, effectivement.
Ouais.
Vous l'avez écouté, le tube?
Non, je t'avouerais que non.
J'ai eu la curiosité d'écouter, c'est pas top, hein.
Ah ouais?
Non, c'est pas génial.
Mais bon, voilà, ils ont joué sur leur force, hein. Ils se sont dit.
En fait, avec les moyens du bord. Ils ont réussi à se financer comme
avec
ça.
Avec les moyens du bord.
Exactement.
Tout à fait.
Et donc, le tube qui nous ont écrit les cocos est pas terrible. Mais nous, on va se mettre un petit son musical en guise d'intermède. There's a man that lives next door. In my neighborhood, he gets me down. He gets in so late at night. Always a fuss and fight. Always a fuss and fight. All through the night. I've got to get away from him. This is not the place for me to stay. I've got to take my family and find a quiet place. Hear the butts and pens they fall. Bang against the wall. Bang against the wall. No rest at all. And gently fall. Bang against the wall. Bang against the wall. No rest at all. I've got to get away now. I've got to get away. I've got to get. C'est un morceau des Paragons.
Wow.
C'est un morceau qui est un peu connu, ça a été repris par Massive Attack.
Ouais, tout à fait. Ouais. Je connaissais uniquement cette version de Massive Attack.
En fait, c'est la version originale que je viens de vous faire écouter.
Merci, Nick.
Tel que le Rocksteady. Alors, nos compères arrivent à Calgary pour participer aux Jeux Olympiques. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau médiatique, on va dire?
Dans la fiction, à l'aéroport, il y a toute une scène assez burlesque.
Ouais.
Où on les voit effectivement être très surpris par le froid. Ouais.
Alors effectivement, ils sont déjà, ils sont, évidemment, ils arrivent dans. Mais enfin bon, Et dans la réalité, ils sont déjà allés à Calgary.
Oui, voilà, ouais.
Fois, donc, ils sont allés à Placide. Bon, le froid, je pense qu'il commence déjà.
Oui, on est un peu moins dans la caricature. Voilà. Ouais.
Alors en fait,
parfois il y a des gens plus frileux que d'autres. Hein. Tu sais,
c'est vrai, c'est... t'es frileux, toi.
Ah, moi,
ah bah alors, Lunel, c'est frileux parce qu'il est tout le temps en tricot.
Ah oui. Oui. Ah mais d'ailleurs, j'en tricote en ce moment pour toi aussi.
Ah, c'est très gentil. Moi, j'aime bien le bleu.
Mais c'est un pantalon que tu tricotes, Olivier.
Ah non, c'est pas un pantalon. Je vais y faire un trou à la fin.
Il y a trois bras. Oui, c'est comme ça qu'on appelle. Trois bras.
Trois jambes. Non, non, trois bras.
Non, trois bras.
Et du coup, en fait, ils sont accueillis un peu en rockstar par les médias américains. Notamment.
Ouais, ils en font un vrai truc, quoi.
Ah, bah, en fait, ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'il y a vraiment les ricains tout le temps partout derrière.
Ouais, ouais, ouais. Mais on commence un peu à comprendre pourquoi l'adaptation arrive assez rapidement, en fait, après l'événement. Quoi.
Évidemment. Là où Disney, en fait, nous, on a l'impression qu'ils prennent un risque en parlant d'un truc que personne connaît.
Et en fait
aux États-Unis, cette compétition a été suivie, et notamment l'équipe de la Jamaïque.
Ouais, grosse lumière.
Incroyable.
Donc, alors voilà. Donc, du coup, les Américains s'intéressent à eux. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, il y a plein d'équipes un peu exotiques, autres que la Jamaïque, qu'on a du mal à imaginer aux JO d'hiver à cette époque. Il y avait Porto Rico, notamment, les Antilles néerlandaises et les îles Vierges des USA.
Ouais.
Voilà. Mais bon, les médias américains font un focus sur la Jamaïque, quoi. Bon. Et du coup, comment ça se passe dans le rapport, enfin dans le film en tout cas, comment ça se passe dans le rapport avec les autres équipes ?
Alors ça se passe pas du tout aussi mal que peut présenter le film en fait.
Oui, alors c'est pas tout à fait aussi
on
mal.
On a affaire, comme dans le film, à du racisme bien primaire.
Voilà, déjà on a affaire à du racisme bien primaire, puis surtout ils se foutent sur la gueule en fait, avec les autres équipes dans la scène.
Ouais, mais c'est la bagarre, ça on est bien.
Oui, toi t'adores la bagarre.
J'adore la bagarre.
Une bonne bagarre.
On fera un EPO sur la boxe.
Sur la boxe, ou la bagarre tout court.
Ou la bagarre tout court. Et donc du coup, ils sont effectivement très mal accueillis au point de se chamailler avec les autres équipes. Ça s'est effectivement pas tout à fait passé comme ça. Mais ceci dit, ils n'ont pas été accueillis de manière si sympathique que ça. J'ai un petit extrait par rapport à ça. Je vous fais écouter.
Les athlètes des meilleures équipes ne nous parlaient pas. Ils faisaient comme si on n'existait pas. On n'était pas les bienvenus. C'était encore l'époque du rideau de fer. Et il y avait beaucoup d'équipes venant de Russie, de l'Allemagne de l'Est. Ils ne parlaient à personne.
Vous n'avez rien à faire ici, le Jamaïcain. Toi et ton copain, je vous conseille d'oublier le bobsleigh, d'accord ? Il n'y a pas de place pour les touristes ici. Rentre chez toi, crois-moi, le bobsleigh, c'est une histoire de mec.
Étant dans l'armée, entraîné et formé à l'art de la guerre, je pensais que si tu venais de l'autre côté du rideau de fer, tu devais être un diable. Mais on partageait les mêmes rêves et les mêmes envies. On avait les mêmes peurs. On avait le même désir de concourir pour notre pays et d'être les meilleurs. Donc, l'unique différence entre nous, c'était l'idéologie. Personnellement, je pense que c'est l'expérience la plus enrichissante que j'ai vécue. C'est un bon souvenir.
Alors, on a effectivement deux sons de cloche, en fait, dans les interviews. Alors,
ouais, bon, il y a un peu de ça dans les interviews, mais en réalité, je pense que les autres athlètes les calculent pas vraiment parce que ils arrivent un peu en touriste, c'est-à-dire 6 mois d'entraînement.
Les athlètes les calculent pas parce qu'ils ne pensent en aucun cas qu'ils vont faire un résultat.
Oui, ils ont 6 mois d'entraînement, ils dévalorisent aussi un peu la discipline, quoi.
Exactement, je pense que Younes a raison. Mais ça reste plus de l'indifférence que de la haine véritable.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui, voilà, et puis c'est de dire, bon, vous arrivez un peu en charlot.
Je suis pas sûr que les Allemands de l'Est et les Russes soient très sympas avec les autos aussi, quoi.
Non, c'est sûr.
D'ailleurs,
je pense qu'il y avait du vrai. Non, il y a du vrai.
Ce serait intéressant de voir quelles étaient les relations entre justement le bloc de l'Est et le bloc de et puis l'Occident pendant les JO. Parce qu'il fait partager le
fameux boycott des athlètes russes et puis.
D'abord les Américains.
Les Américains
les JO de Moscou.
Voilà, qui ont boycotté les JO de Moscou et puis.
Du coup, les Russes ont répondu.
Et ont répondu, deux ans plus tard, c'est ça.
Ça devait être 4 ans plus tard.
4 ans plus tard, oui.
De toute façon, tous les JO ont été
Oui, il y a toujours.
À chaque fois, il y a eu les athlètes américains qui avaient des médailles pendant la guerre froide étaient doublement récompensés médiatiquement, mais aussi grandement financièrement.
Oui, bien sûr.
C'est les Russes aussi qui ont commencé aussi à primer leurs athlètes, et notamment dans les JO d'hiver où les Russes avaient aussi beaucoup de chance, voire plus de chance.
C'était le moment de briller.
A priori,
les JO à l'époque étaient hyper intéressants à voir, notamment dans une discipline comme le hockey sur glace, parce que États-Unis et les Russes avaient deux équipes hyper forte.
Oui.
Et il y avait des matchs qui devaient être. Alors, moi, à l'époque, j'étais pas né, en fait, déjà, donc je pouvais pas les voir, mais je pense que ça devait être assez ouf.
Ah, là, c'était un peu la bagarre.
C'était la bagarre. Alors, Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, si vous voulez, la cérémonie d'ouverture s'ouvre le 13 février 1988.
Ouais.
Et donc, la Jamaïque défile, évidemment. Qui est le porte-drapeau de la Jamaïque?
Ah bah, c'est Devon Harris.
Non, c'est Dudley Stokes.
Dudley Stokes, oui.
C'est Dudley Stokes. Alors, imaginez la fierté. En fait, c'est pour ça qu'ils ont accepté cette aventure aussi. C'est surtout qu'ils rêvaient, évidemment. C'était des sprinteurs qui n'étaient pas forcément les meilleurs dans leur catégorie. C'est pour ça qu'ils ont fini militaire. Et ils rêvaient de défiler pour leur couleur, enfin pour leur pays. Et ils se retrouvent porte-drapeau de leur nation.
Oui, ouais. En même temps, ouais. Je me dis qu'ils ne prenaient pas de risque, les gars. Parce que quand tu es militaire en Jamaïque, tu dois tellement te faire chier que tu es bien content d'aller même à Calgary.
Oui, c'est vrai, il faut quoi l'armée, pour aller... l'armée jamaïcaine?
Bah, je ne sais pas, peut-être qu'ils tiennent... justement, c'était l'époque du bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest.
Ouais,
je pense qu'ils devaient tenir des positions américaines. Avec Cuba pas très loin, et il devait y avoir certains... Certainement,
tout à fait, nos amis de Culture 2000 pourraient nous renseigner là-dessus.
Tout à fait, ouais.
Et donc, alors, ce qu'il faut préciser, une chose qui est très importante, c'est qu'à l'origine, cette équipe de bobsleigh jamaïcaine va au JO de Calgary pour concourir dans l'épreuve de bob à deux.
Oui.
Et oui,
oui, en fait, oui, c'est vrai.
Ils ont commencé comme ça, le bobsleigh au JO d'hiver de Calgary a commencé par le bob à deux.
Ouais, ça commence toujours, je crois, par le bob à deux.
Ouais. Mais vérifier, coup, mais... Voilà, ça, on n'en parle pas du tout dans le film. C'est le bob à quatre.
Alors, c'est ça qui est
impressionnant. La discipline elle-même a commencé au bob à deux et puis a été.
Il y a une explication pour ça dans les JO, c'est qu'en fait, c'est encore une fois, c'est les médias américains qui se sont penchés particulièrement sur l'épreuve à quatre.
Ouais.
Parce qu'au moment où l'épreuve à quatre de bob à quatre a eu lieu, en fait, l'équipe de hockey sur glace, on en revient des États-Unis, avait été éliminé de la compétition et les Américains cherchaient du contenu pour leur temps d'antenne des JO.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'ils se sont intéressés en fait à l'épreuve à 4.
Ouais, ils ont commencé à faire un focus sur l'épreuve à 4 pour pouvoir enrichir leur programme.
Exactement,
leur programme,
et un focus non seulement sur l'épreuve à 4, mais sur l'équipe de Jamaïque en fait.
Ouais. Ouais.
Ils sont devenus supporters et c'est pour ça que ça fait une espèce de buzz aux
États-Unis. Moi j'aimerais parler du bob en lui-même, en fait, de l'engin en fait, qui défile. Il a été en fait à un moment donné sujet en fait à des améliorations au fur et à mesure, vous pouvez imaginer, depuis 1924.
Oui, j'imagine.
Et puis à un moment donné, le CIO.
Ils ont mis une marche arrière.
Voilà, ils ont fait une marche arrière avec un petit bruit. Pour reculer.
Mais il y a l'airbag maintenant.
Il y a l'airbag, tout à fait.
Ça leur aurait bien servi.
Mais en fait, il y a une règle qui est simple maintenant, en fait, parce que certaines nations sont plus avancées, notamment en métallurgie, parce que le bob repose sur des lames. Et ça, c'est en fait une règle unique. C'est une lame avec un alliage simple qui met toutes les nations sur un pied d'égalité.
Ouais,
car certaines nations, comme la Suisse ou l'Allemagne, étaient plus avancées en métallurgie, simplement.
D'accord.
Et donc, ça leur donnait un avantage certain sur la glisse.
D'accord.
Et donc, il a fallu lisser un peu techniquement pour pouvoir ouvrir notamment cette discipline. Sinon, elle allait se jouer entre deux pays à terme, ce qui allait rendre, un peu comme le foot aujourd'hui, une compétition un peu moins intéressante que quand elle l'est un peu plus ouverte.
T'as raison, le foot.
Non, j'ai rien dit.
Regarde, le Portugal a gagné il y a 2 ans, personne ne s'y attendait.
C'est vrai. Ouais.
Et qui joue en Ligue 1, alors.
Il y a de temps en temps des surprises. Ouais. Dijon en Ligue 1. Ouais,
alors, il faut dire que je suis particulièrement joyeuse ce soir parce que Dijon vient de gagner juste avant d'enregistrer.
C'est un marqueur.
Dijon a gagné et on a assisté à un magnifique but de Julio Tavares.
Tavares. Voilà. Qui vaut
évidemment un
paquet. De fric. Ouais.
On fera un épisode évidemment
spécial sur Julio Tavares.
Julio Tavares. On l'invitera évidemment. Il sera
bien sûr.
Évidemment, il est tellement sollicité par les médias que
ça va être difficile de l'avoir. Mais bon.
Ouais, ça doit pas être évident.
On va peut-être voir Cavani, mais Tavares, ça va être chaud.
Oui, Cavani, il a dit oui. Hein.
Oui.
C'est
oui.
Bon. Il a dit oui.
Non, mais bon, c'est pas Tavares en même temps.
Ah bah, c'est pas évidemment. Alors, donc, il concourt à l'épreuve à deux qui a lieu les 20 et 21 février.
Oui.
Ça se passe pas trop mal. Alors, je sais plus qui...
Dudley Stokes et Michael White.
Exactement. Merci, Olivier. Merci. C'est effectivement les deux qui vont participer à l'épreuve à deux. Ils finissent 35e sur 38.
Ce qui est pas mal, mais pas top.
T'es jamais content, toi.
Ah, écoute,
Les mecs, ils ont pas... Ils, 6 mois avant, ils avaient jamais fait du bobsleigh.
Mais ouais, mais bon, il a raison. C'est pas top non plus, quoi.
Tu viens de me dire qu'il y avait le Pérou, le Costa Rica et je sais pas quoi comme équipe.
Ouais, donc ils sont juste devant le Costa Rica. Alors, quoi,
Le Pérou, les Antilles néerlandaises et les îles Vierges, déjà, participaient aux JO d'hiver. C'est pas dit qu'ils étaient en bobsleigh. Ils étaient peut-être dans d'autres disciplines.
Le curling,
discipline.
C'est parce que c'est les JO d'hiver, c'est l'Allemagne. Discipline.
Voilà, oui, d'ailleurs, les JO d'hiver, effectivement, on dit pas une discipline, on dit une discipline.
Oui. En autrichien.
En autrichien, exactement. Donc, ils finissent quand même devant la Nouvelle-Zélande, le Portugal et le Mexique. Alors, par contre, eux.
Mais attends, je pense que si on monte une équipe de bobsleigh, même nous, on finit devant la Nouvelle-Zélande.
Pas sûr, ils ont beaucoup de neige en Nouvelle-Zélande. Non, moi j'aurais dit devant le Mexique. On finit au moins devant le Mexique.
Le Portugal, d'ailleurs.
Bah oui.
Oui.
On pourrait monter une équipe de bobsleigh.
Bah tiens.
Mais pourquoi on ferait pas ça le dimanche
plutôt, pas,
que
bah, tiens.
Plutôt que vous, même ce podcast là, peut-être qu'on pourrait faire une
équipe de bobsleigh. Mais t'as raison, bah tiens, on arrête. Allez, salut.
Au revoir.
On vous laisse. Alors salut. du coup, donc ils finissent 35e sur 38. En théorie, alors vous saviez qui a gagné sur cette épreuve de bob à deux?
La Suisse.
Eh ben non.
L'Allemagne.
Ils sont même pas dans le top 3.
Ah ouais, l'Allemagne.
Non.
Les États-Unis. La France.
Non, quand même, Younes, s'il te plaît.
Attends, je suis enflammé, pardon.
Un indice.
La Belgique. Non, c'est l'Union soviétique.
Ah.
Ouais, qui finissent en or avec un temps total, donc sur, il doit y avoir 4 essais, je pense.
Ouais.
Oui, je confirme, il y a 4 essais, 4 manches, de 3,53-48, suivi de l'Allemagne de l'Est et d'une deuxième équipe d'Allemagne de l'Est.
Ah oui.
Donc le bloc communiste a fait carton plein. Hein,
Ce qui me surprend, c'est qu'il y ait une deuxième équipe d'Allemagne.
Alors c'est assez courant en bobsleigh, surtout en bob à deux.
D'accord.
Qu'il y ait plusieurs équipes d'un même pays.
Ah d'accord, ok. Ouais.
Non, mais
d'accord.
Ça l'a dit même dans les épreuves individuelles.
Oui.
Enfin, il y a plusieurs Français, plusieurs Américains.
Bien sûr, oui,
oui.
Plusieurs. Ça me semble plus simple en équipe. Enfin voilà, en individuel.
C'est pour ça qu'ils ont ramassé, à mon avis. Imaginez. Alors
plusieurs fois le drapeau.
C'est pour ça que l'Allemagne a dû ramasser pas mal de médailles puisqu'ils ont deux équipes à l'est et ils doivent avoir des équipes à l'ouest aussi.
Oui.
Donc cumulé, effectivement, je pense que ça fait un bon palmarès.
Les équipes à l'ouest, il doit y en avoir.
Oui, oui. alors, du coup, ils sont un peu... Quel est le ressenti après ce bob à deux? Ils restent un peu sur leur fin, on peut dire.
Ils disent, c'est pas mal, c'est pas top.
Ouais. On peut mieux faire. Voilà.
On peut mieux faire.
Ouais, c'est ce qu'ils sont dit, d'ailleurs.
Donc, du coup, ils décident de prendre une décision. Qu'est-ce qu'ils veulent faire?
Bah, ils se disent, tiens, si on y allait à 4.
Exactement, si on y allait à 4. Alors, ils proposent ça à George Fitch, qui est leur financeur officiel. Et George Fitch, il dit, ouais, les gars, c'est bien, sauf que déjà, on s'est quasiment jamais entraîné à 4.
Ouais.
En fait, ils s'entraînaient à 2.
Ce qu'on peut voir. C'est la grande différence avec la fiction de Walt Disney.
Exactement. Ouais. Ils s'entraînaient à 2. En plus, à l'époque, ils étaient que 3, en fait. Dans l'équipe, puisqu'il y en a. Alors, j'ai eu plusieurs sources. On ne sait pas trop, c'est un peu un mystère.
Ah oui,
il y en a un qui a disparu. Alors, on sait pas si. Je sais pas si. J'ai des documents qui disaient qu'il s'était blessé. J'en ai d'autres qui disaient qu'il avait été disqualifié par.
Moi, j'ai vu l'exclusion d'un quatrième type.
Ouais, voilà, l'exclusion. Donc, on ne sait pas vraiment. Enfin, toujours est-il qu'ils ne sont que 3. Donc, il faut qu'ils trouvent un quatrième.
Oui, qu'est-ce qu'ils font?
C'est Dudley qui va nous sauver.
Il va nous sauver, Dudley?
Bah parce que Dudley a un frère.
Exactement, il a de la famille sur
même
place.
Même si vous me direz, ils sont tous frères en Jamaïque, blablabla. Bla bla bla, mais lui a un vrai frère.
Il a un vrai frère.
Qui s'appelle Chris, d'ailleurs, dans mon souvenir.
Chris Stokes. Eh oui.
Chris Stokes.
Et du coup, il recrute Chris Stokes, donc qui est le frère de Dudley, qui était venu à Calgary pour voir l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque. Mais il le recrute pas tout à fait pour rien, ou c'est pas du piston parce que c'est juste son frère. Il le recrute parce qu'il est très fort au sprint également.
Ouais.
Il est très bon. Et notamment, je crois qu'il participait à l'époque aux qualifications
des JO d'été.
Qui n'avaient pas encore eu lieu, contrairement à ce qu'on voit dans le film, qui n'avaient pas encore eu lieu au moment des JO d'hiver, puisque les JO d'été ont lieu l'été, comme son nom l'a dit.
Oui, non, de toute façon, le film est...
Alors que...
T'as vérifié ta source, quand même.
Non, mais j'ai dû me tromper, t'as raison.
Ces trois sources ont été vérifiées.
Et donc, du coup, dans le film, effectivement, on a les qualifications avant les JO d'hiver, alors qu'en fait, effectivement, les qualifications ont lieu beaucoup plus tard. Et il y a un troisième problème. Bon, il y a des problèmes qui sont réglés. Celui du quatrième est réglé. Mais il y a un autre problème, c'est surtout qu'ils n'ont pas de bob. Ils n'ont pas de bob à 4.
L'essentiel, quoi,
Ils n'ont pas de bob à 4, donc...
Alors, on voit dans le film, en fait, ils tombent
dans le film.
Oui, voilà, ils tombent sur une petite négociation avec une ancienne connaissance de l'entraîneur qui le supplie de lui démerder le coup parce qu'ils arrivent, en fait, tout simplement au JO sans les mains dans les poches, quoi.
Un peu.
L'autre l'emmène dans un garage et soulève une vieille bâche dans laquelle il trouve...
Pardon, moi j'ai une autre image.
C'est Bache qui te.
Et garage aussi beaucoup.
Et Pierre Bachelet, qu'est-ce que t'as contre Pierre Bachelet?
J'adore les corons. Fais attention, j'adore les corons.
C'est vrai, on pleure sur les corons.
On pleure sur les corons.
Les corons, elle est d'ailleurs aussi. Chanson très sous-estimée.
Ah, oui, c'est vrai?
Tout à fait. Et Petit Bonhomme.
Bon, oui, magnifique.
Vous aimez Maxime Le Forestier aussi?
Alors, moi je suis moins fan.
Ah oui?
Je suis pas complètement.
Tu pourrais faire un petit podcast là-dessus aussi?
Ouais, je suis pas complètement fan, mais j'apprécie le bonhomme.
Alors, j'ai découvert, alors je suis désolé, on s'écarte un peu du sujet, mais j'ai découvert certains morceaux de Bernard Lavillier que je trouve très beaux.
Et c'était pas un manchot, Bernard Lavillier.
Lui j'aime bien.
C'est vrai,
J'aime bien.
Alors, vous savez qu'il est stéphanois?
Ouais, complètement. Les mains d'or, c'est l'une de ses chansons qui parle justement de.
C'est une chanson magnifique.
Ouais,
je vous conseille d'écouter le morceau Saint-Étienne de Bernard Lavillier.
Ouais.
C'est très très beau morceau.
Tout à fait. Ouais,
qui est un peu dans la veine des Corons, quoi. Il parle de ses origines, de ouais, son enfance. Non,
c'est touchant.
Cette ville ouvrière, ça veut dire.
Donc pour revenir au Bob.
Non, on va continuer de parler.
Donc il tombe en fait sur une forme de ruine et finalement l'un des pilotes, enfin l'un des bobeurs, a une forme d'illumination et il décide en fait un peu de porter l'équipe comme ça par une forme de spiritualité retrouvée face à un objet dans lequel il met tout son espoir. Mm-hmm. Mais dans la réalité, comment ça se passe?
Bah, ça se passe à peu près comme ça, figure-toi.
Et ouais,
alors,
complètement.
Ouais, ils achètent un vieux Bob à l'équipe. Alors, dans le film, c'est une équipe américaine puisque c'est ses potes américains. Alors, dans le film, l'entraîneur est un ancien athlète américain. Et dans la réalité, ils achètent un Bob au Canadien qui leur offre un Bob. Qui est un peu pourri, mais ils ont quand même un Bob, ils finissent par avoir un Bob.
Ouais,
pas une casquette d'été avec Marc-Éric Ricard dessus.
Participe donc au Tour de France.
C'est les 4 qui arrivent devant leur entraîneur.
Ils ont une casquette géante. Les 4 dans une casquette géante et dévalent comme ça. Les
ça y est, coach, on a trouvé un Bob.
Oui. Regardez.
Alors, l'épreuve à 4 commence. Là, c'est le 27 février, c'est sur 2 jours. Donc il y a deux manches le 27, deux manches le 28.
Alors moi j'ai une petite question.
Vas-y.
On s'écarte un petit peu du sujet peut-être, mais
qui tu veux parler de Bernard Lavilliers, non?
Parce que Fitch et Malhonnête là. Comment ils s'appellent? Malhonnête. c'est les mecs qui ont découvert
le Bob.
Idée, qui ont demandé, qui ont sélectionné ces gens.
Ouais.
Et c'est leur entraîneur?
Non, c'est pas leur entraîneur. C'est pas leur entraîneur. Alors Fitch et ils sont sûrement sur place. D'ailleurs, Fitch est sur place, c'est sûr. Malhonnête, je sais pas. Mais c'est pas leur entraîneur. Ils ont un entraîneur américain dont j'ai pas le nom.
Alors moi, je crois que c'est Pat Brown.
Ouais, c'est possible.
Il me semble que j'ai cru comme ça entendre.
Alors oui. Alors Wikipédia. Alors juste pour dire que Wikipédia, c'est quand même de la merde. Sur Wikipédia, ils stipulent qu'en fait leur entraîneur est autrichien. Ce qui est faux, en fait, l'entraîneur autrichien dont Wikipédia parle, ça va être l'entraîneur de l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque pour les JO suivants.
Il faut relativiser les informations sur Wikipédia, notamment sur des sujets aussi creux. Quand je dis aussi creux, c'est-à-dire avec très peu de communautés qui fournissent
des informations.
Des informations, qui fournissent des informations, voilà.
Qui fournissent des informations. je continuerai pas tant que tu l'auras pas dit 7 fois. C'est comme Beetlejuice, voilà. Ça va arriver.
Des informations.
Et donc, du coup, première manche. Ça se passe. Alors, il mélange un peu tout dans le film. Je vais vous dire. Je vais vous dire ce qui se passe exactement.
Dis-nous.
Lors de la première manche.
Faut voir que le film est court, hein. C'est un petit film. Hein.
Ouais, c'est un petit film.
Ouais.
Lors de la première manche, dans le film de mémoire, c'est la manche où.
La bagarre dans le bar.
Non, mais. Non. Oui, alors déjà. Oui.
Ça, c'est une manche. Elle compte pas comme une manche, Younes.
D'accord.
C'est vrai. C'est
même
vrai.
Si on aime la bagarre.
Il n'y a pas de médaille d'or, hein, sur la bagarre.
D'accord.
Et du coup, sur la première manche, il n'arrive pas à s'asseoir. Il y a un des membres de l'équipe qui n'arrive pas ce soir. Ça, il se trouve que ça se produira vraiment, mais sur la deuxième manche. Sur la première manche, ça se passe plutôt mal, mais en fait, ils ont un problème de barre.
Ah oui, qui
de barre de poussée qui se casse. Et ça, en fait, le film va l'exploiter sur la troisième manche où il se retourne. En fait, il se retourne à cause, effectivement. De la discipline.
De la discipline.
Alors qu'en fait, c'est sur la première manche que ça se passe. Et ils arrivent, en fait, ils se retournent pas sur la première manche. Ils arrivent 24e sur 26, ce qui est pas terrible.
Ce qui est. Pas mal, mais pas top.
Merci Olivier. Ensuite, on passe à la deuxième manche. Deuxième manche.
C'est pire encore.
C'est pas terrible. C'est la fameuse manche où Mike White, en fait, arrive pas à s'asseoir dans le bobsleigh. Effectivement,
à
tel point qu'il fait le premier virage entier debout.
Ah oui.
Ils arrivent 25e et j'ai un petit extrait qui concerne cette petite mésaventure.
Jamaïque est en piste pour sa toute première descente olympique. Oh là là, ils ont du mal à embarquer, je dirais. J'ai jamais vu ça. Non, je sais que ce n'est pas drôle, mais ils ont l'air de s'être un peu mélangé les pinceaux. Enfin, ça y est, j'ai bien cru qu'ils n'allaient pas y arriver à temps. Ça aurait dû être une catastrophe.
Je me souviens de la deuxième course en particulier. Michael était monté dans la luge. Moi, j'étais juste derrière Dudley. Michael était derrière moi, le numéro 3. Et Chris était le freineur, à l'arrière. Et alors, je suis monté dedans. Michael est venu derrière moi. Et ses crampons se sont accrochés à mes jambes. J'essaye de me dégager, je n'y arrive pas. La luge était vraiment petite et mes jambes un peu envahissantes. Alors qu'on glissait, les gens nous disaient « Assieds-toi, assieds-toi !» Parce qu'il était debout. Il se tenait debout comme ça. Donc je lui ai dit, enlève-toi de ma jambe.
Oui, c'est une opération très délicate, l'embarquement. Il faut que les 4 équipiers se déplacent vraiment comme des chats. Oh, ils ont des problèmes dans la ligne droite. Ils ont cogné. Ils font des ricochets maintenant. J'ai l'impression que le pilote de Rhys Bannott n'a pas le contrôle de son peuple.
C'est marrant, ça me fait penser à nous quand on joue au foot.
Oui, t'arrives pas. Oui, c'est vrai, t'arrives pas.
C'est ma jambe, Mickaël, c'est ma jambe.
On tire ton de ma jambe.
C'est quand je t'ai fait ta rupture des ligaments croisés.
Oui.
Ça va mieux d'ailleurs.
J'ai encore du mal à aller aux toilettes.
D'accord, très, très très bien. Donc après la deuxième, on revient à notre sujet après.
Oui,
revient
à la mouton.
Oui, plutôt que de parler des toilettes. Après la deuxième manche, il y a donc une.
Troisième manche.
Exactement.
Yes, ouais. Yes,
bravo. Première bonne réponse, bravo. D'Olivier. Et donc, alors la troisième manche a lieu. En fait, on a les deux premières manches le 27. La troisième manche se passe le lendemain.
Alors, que font nos apprentis?
Tu veux dire le jour d'après?
Ouais.
Exactement.
Ouais.
C'est-à-dire le jour qui suit. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il y a une mauvaise prédisposition, en tout cas, pour courir cette manche. Parce qu'il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs choses.
Mais attends, mais il y a un truc incroyable surtout.
Oui, il y a des trucs incroyables.
Non, mais attends, l'entraîneur n'est pas là.
Oui, voilà. Alors,
l'entraîneur s'est cassé.
Déjà.
Mais c'est un truc de non, c'est un malade.
Il se barre.
C'est-à-dire qu'en fait, George Fitch vient voir Dudley Stokes, qui est le pilote, le capitaine. Et il lui dit, écoute, il y a un petit bail là quand même, hein, pour aujourd'hui, là, pour l'épreuve, c'est que votre entraîneur s'est barré.
Est-ce que tu crois qu'il lui dit vraiment, il y a un petit bail?
Oui, certainement. Je pense que c'est exactement le terme, j'ai vérifié. Hein,
oui, c'est vérifié sur Wikipédia.
Exactement.
Ouais.
Et du coup, il lui dit, effectivement, votre entraîneur s'est barré. Alors apparemment, d'après les informations que j'ai, pour des raisons professionnelles.
Ah.
Voilà. Bon, c'est un mec consensuel. Oui.
Bon, le mec avait un casting ou un truc comme ça. Et...
Ou alors il reprenait le boulot tout simplement. Il posait des congés. Je pense que l'entraîneur, pour le coup, il était amateur également.
Donc comment ils font alors là? Ils se retrouvent sans l'entraîneur.
Alors, il n'y a pas que ça.
Alors, ils se retrouvent sans l'entraîneur. Il faut savoir qu'il y a juste Dudley Stokes qui le sait.
Et sachant que Dudley Stokes, il va pas très bien.
Et voilà, pourquoi il va pas très bien?
Et ben parce qu'il s'est démis l'épaule, c'est ça?
Alors voilà. Alors déjà, il s'est réveillé le matin, Dudley Stokes, avec une fièvre carabinée. Alors là, il avait une crève, t'aurais vu.
Ah oui.
Oh bah oui, dis donc.
Carabine.
Oh, ça coulait. Oui.
Comme quoi, le Doliprane avant de se coucher, c'est pas si bête.
C'est bien. C'est
non,
pas
non,
si
non. Bien,
exactement. Et surtout, faut boire de l'eau entre
beaucoup
les
d'eau.
Deux.
Ouais. Faut,
entre les repas.
Non, entre deux verres de vin, un verre de vin, de l'eau, un verre de vin. Tout
voilà,
le monde le sait.
Exactement.
Ah oui, pour bien transpirer. Ouais.
Et pour bien transpirer.
Ouais.
T'as mis à transpirer, toi?
Ah oui, bah regarde, je transpire du doigt.
ça va mieux ton doigt?
Ouais, il a gonflé, mais ça va, ouais.
Mais oui, mais reprends une bière.
Hein. Ouais, ouais.
Mais surtout, finis ton tricot, là. T'as pas avancé.
Oui, pardon. Ah, regarde, t'as fait que la manche.
Pardon, ouais.
Alors, du coup, effectivement, il se réveille avec de la fièvre et il part en reconnaissance le matin de la piste parce qu'apparemment, chaque début de journée de compétition, on va voir la piste pour voir si la glace est dure ou pas. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il se casse la gueule.
On dirait nous au foot encore.
Ouais.
Exactement.
Ouais,
donc Sauf qu'il se déboîte l'épaule.
Ouais. Il se fait très mal.
Il se fait très mal, donc ça va pas très bien. Alors, il se fait soigner par le docteur de l'équipe de la Grande-Bretagne.
Ah oui, c'est
qui,
ça,
qui lui sort. Alors, c'est marrant parce que dans le témoignage qu'on entend dans le documentaire qui est passé sur Beansport, il dit qu'il a un spray magique. Je pense que c'est la première fois qu'il voyait ça.
Oui.
Alors qu'aujourd'hui, c'est très courant dans le sport.
Ouais.
Un spray pour atténuer la douleur.
C'est fait exprès.
Elle est magnifique celle-là.
Ouais,
bravo. Ouais. Et donc du coup, il se lance donc dans les très mauvaises conditions. Oui, j'aime bien insister sur les il se lance dans des très mauvaises conditions, mais ça commence pas si mal.
Bah parce qu'ils font le septième meilleur départ.
Exactement.
Ouais. Donc là, leur force ressurgit, le sprint donc. Et sur les 50 mètres, ils font une petite différence.
Ils font effectivement le septième meilleur départ.
Ouais. Donc et ils sont bien partis pour pouvoir, en tout cas avec ce départ-là, prétendre à quelque chose, quoi.
Exactement. Donc, alors ça, pour le coup, dans le film,
là, pour le film, c'est respecté. Et puis,
ils font le septième départ le plus rapide, sauf qu'à un moment donné, ça va se passer pas si bien que prévu.
Nous allons peut-être assister maintenant à un événement historique.
Balance Man, Cadence Man, trace la glace, c'est le Bob Man.
Ils ont encore clignoté quelques centièmes au départ. Ils sont incroyables, ils font des progrès à chaque nouvelle descente. Mais regardez la précision avec laquelle le Bob amorce les virages, tout en douceur. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, de Rhys Bannock. C'est incroyable.
Fabuleux, fabuleux. Allez les Jamaïcains. Les Jamaïcains semblent avoir des ailes. Ah,
de battre un record, mais ils ont du mal à garder le contrôle dans le virage. Ils vont trop vite. Je ne crois pas que le pilote va pouvoir longtemps maîtriser ce... Oh!
J'avais toujours une milliseconde de retard. On est arrivé au grand virage, j'étais vraiment à la traîne et on s'est crashé en sortant du virage.
Je crois que Dudley a perdu la concentration. Il a raté un virage et c'était foutu. On s'est retourné. Quand ça t'arrive, tu ne peux plus te remettre à l'endroit. Ça fait partie du sport. Tu dois te crasher pour apprendre. Si tu ne te crashes pas, tu n'es pas un vrai bobeur.
J'ai pleuré.
Ah oui, c'est la fameuse scène.
C'est triste, bien sûr. Et alors, ça se finit définitivement là pour eux, donc
la compétition. Qu'est-ce qui se passe alors en fait, raconte-nous, Ulysse.
Alors, ils ratent donc, avec défaut de concentration, ils ratent donc un virage. Mmh. Donc ça, c'est pour la réalité. Et puis dans la fiction, on voit en fait un défaut du Bob en fait qui était.
C'est là où la fiction en fait mélange la première manche et la troisième manche.
Exactement, ouais. Donc le Bob en très mauvais état dans la fiction cède un petit peu. Donc on reporte un petit peu. Le destin de ces Jamaïcains dans le film sur du matériel plutôt que dans la réalité, en fait, c'est tout simplement un défaut
de concentration, de pilotage, en fait.
De pilotage, donc de comme n'importe quel sportif.
Le mec a plus d'épaules, a appris qu'il a plus d'entraîneur.
Il a perdu sa femme.
C'est une bonne journée pour Dudley.
Dans la fiction, ils étaient quand même en train de battre un record, visiblement, ce qui est pas du tout le cas dans la réalité.
Bah, en fait, ils finissent. Alors, j'ai les temps là, d'ailleurs. Donc, sur la manche 1, ils finissent à 58-04 à la 24e place.
Ouais.
C'est plutôt... Pas mal, c'est mais pas top.
C'est pas un record, effectivement.
Alors, c'est marrant parce que je sais qu'ils sont 24e, mais sur je sais pas combien.
Sur 26. À chaque
sur 26
fois.
D'accord. Et sur la manche 2, ils finissent à 59-37, 25e.
Sur 26.
Okay. Et sur la manche 3, évidemment, ils finissent.
Dernier.
Exactement. Ouais. Ils finissent dernier. Ouais. Et du coup, c'est éliminatoire apparemment, puisqu'ils ne courent pas la manche 4. De toute façon, je crois que.
Ouais, il faut au moins franchir la ligne d'arrivée, c'est ça.
Ouais, je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là? Parce qu'en fait, ils se sont retournés, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête?
Bah, eh ben. Ils décident quand même de franchir la ligne d'arrivée.
Alors, ils décident de franchir la ligne d'arrivée.
Mais pas n'importe comment.
Alors on va, c'est là qu'on va faire une distinction entre effectivement le film et la réalité. Ouais. T'as quelque chose à dire peut-être, Olivier?
Vas-y, Olivier.
Moi, je voulais juste te dire un mot, Bermuda. Voilà, c'est bon.
D'accord.
Mais c'est mon mot préféré, comment tu sais?
Ah, bah, c'est un mot que j'adore beaucoup aussi.
Ah, oui. Oh là, on est fait l'un pour l'autre.
C'est marrant que vous parliez de ça parce que je suis en train de tricoter un Bermuda.
Oui, là, tu viens de faire un pull, là, c'est ça?
Des grosses mailles, ouais. Un Bermuda en grosses mailles.
C'est
ouais.
Bah, de toute façon, il n'y a que les grosses mailles pour les.
Ah, bah, ça va être à fond cet été, vous allez voir.
Ça va revenir à la mode. Alors, déjà, en fait, quand on écoute les témoignages en fait des protagonistes, ce qui est incroyable, c'est que ils ont honte en fait au moment où ils se retournent, c'est-à-dire qu'ils se disent les gens nous ont pas pris au sérieux et ils ont raison parce qu'on a échoué.
Ça vraiment comme un échec. À la fois leur propre déception et l'image qu'ils ont des gens qui les regardent.
Voilà, et l'image qui renvoie de la Jamaïque.
Oui, puis, en fait en réalité, ils ont fait cette compétition au premier degré, là où les gens pensaient qu'ils avaient pris ça un peu à la légère, un peu pour battre un record, de se dire que la Jamaïque pouvait aussi avoir des médailles dans les JO d'hiver. Ouais. Et donc, avec un peu de condescendance, se dire, tiens, bah, si on pouvait aussi participer à ça, parce qu'on a des sprinteurs, on peut aussi imaginer pouvoir titiller quelques chronos dans une discipline comme ça au hasard.
Oui.
Les autres ont peut-être un peu raison aussi de voir ça de cet œil-là. Mais ça marche pas, comme tu dis, ça marche pas en fait.
Oui, et du coup, alors en fait,
Sauf qu'eux, ils sont premier degré. L'équipe elle-même est premier degré.
Degré. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que ils sortent donc du bobsleigh après un choc quand même assez violent. Je crois qu'ils étaient à presque 130 km/h.
Dans le dernier virage, un virage.
C'est le dernier. Non, c'est le virage le plus délicat.
C'est ce qu'on appelle. Je l'ai noté.
Oui.
Le virage s'appelle le Chrysler.
Oui, mais pourquoi tu lèves la main droite quand tu dis ça?
Ah, parce que c'est le Chrysler. Donc c'est le monstre.
C'est le monstre.
Ouais, c'était le virage qu'on appelait le monstre à Calgary.
D'accord, ok.
Et
effectivement,
c'est un village qui est
un village gaulois.
J'allais dire un virage irréductible gaulois, évidemment, on a la même blague. Et du coup, ils se plantent et leur souhait, c'est de se barrer le plus vite possible pour éviter le regard du public en fait.
Ouais.
Ils font pas ça parce que dans le film, c'est montré comme une espèce d'héroïsme.
Bah forcément.
On va au
et
bout.
Et puis il y a la musique d'Hans Zimmer derrière.
Exactement.
Qui...
Alors je réserve pour la fin, pour la conclusion de ce podcast, cette séquence en intégralité. Vous allez voir comment Disney joue avec les émotions,
bien
rien
sûr.
Qu'avec la musique d'Hans Zimmer.
Bien sûr.
D'ailleurs, Hans Zimmer.
Pardon. Oui. Et du coup, ils veulent se barrer le plus vite possible pour vite échapper au regard de ce public. Et ce qui est dingue, c'est que les gens vont commencer à tendre leurs mains, qu'ils leur tapent dedans, et à leur crier, et à les applaudir, et à leur crier « on vous aime ».
Ouais.
Et donc, bon, c'est ça qui est très bien mis en scène. Alors, quand même, malgré tout.
Mine de rien, le public a réagi dans d'un côté très, enfin, avec un côté très positif, parce que finalement, ils se sont aperçus que ils ont réussi, grâce à une équipe comme celle-ci, à médiatiser en fait une discipline.
Oui.
Et quelque part, de se dire, bah, on n'est pas juste des gens curieux à regarder.
Alors, il y a l'image du perdant courageux aussi. Enfin, tu
oui, carrément.
Oui,
c'est le beau perdant.
Ouais, ouais, mais
c'est
je pense que.
Alors, par contre, ils prennent pas leur
bob.
Non, dans, bob effectivement, dans le film, ils portent leur bob comme un corbillard.
Comme un cercueil.
Alors qu'en fait, ils le traînent, quoi, tout simplement, dans la réalité.
Ah, ils le traînent. Moi, je pensais même pas qu'ils le prenaient.
Si, apparemment, ils le traînent. Il existe d'ailleurs, j'encourage les auditeurs à le faire, il existe les vraies images de compétition, mais une musique un peu nulle dessus. Mais il existe les vraies images.
C'est pas la musique de Hans Zimmer
ou de Bernard Lavilliers.
Ah, c'est la musique de Bernard.
Arrête ça. Je crois que c'était. Je crois qu'il diffusait vraiment la musique de Bernard Lavilliers sur l'épreuve. C'est pour ça qu'il s'est retourné. Ils ont pleuré, tu sais pleurer. Et du coup, et du coup, en fait, ils traînent leur bobsleigh pour se barrer, et en fait, ils ont un accueil. Alors, les équipes, justement, les équipes qui les accueillent plutôt mal, les équipes de l'Est, les grands champions, que ce soit les Suisses et autres, en fait, ils avaient peur
ils avaient peur que des amateurs arrivent et
tuent la crédibilité du sport, en fait.
Enfin, de leur sport. Hein, bien sûr.
Alors qu'en fait, leur sport était pas du tout médiatisé, et malgré tout, ils ont réussi à médiatiser un peu plus le bobsleigh. Grâce quand même à l'équipe de la Jamaïque, non mais il faut le dire.
Non mais
l'équipe de la Jamaïque était plus médiatisée que les autres équipes.
Bien sûr.
Alors que c'était des perdants, quoi.
Mais t'as expliqué tout à l'heure, à juste titre, que c'est aussi des raisons médiatiques d'un canal américain qui décide.
C'est ça, comme malheureusement beaucoup beaucoup de choses, mais.
Oui, ou heureusement.
Alors pour conclure, les amis, pour conclure, qui gagne cette épreuve de bob à 4?
Ah, Thierry Roland.
Oh, c'est Messi.
C'est Messi.
Bien sûr, c'est Messi.
C'est la Suisse, non? Toujours.
C'est la Suisse. Ah, c'est la Suisse. Il y a le bob à 4. C'est la Suisse. Pourquoi toujours?
Parce que la Suisse,
ils sont une fois sur 4, une fois sur 2.
Oui, c'est vrai.
Oui.
La Suisse. Suivi de
l'Allemagne.
L'Allemagne de
l'Est.
L'Allemagne de l'Est.
Ouais.
Et en bronze. L'Allemagne de l'Est.
Et en bronze, on a l'Union soviétique.
Oui. Tout à fait. Ouais.
Est-ce que vous avez regardé le tableau des médailles de ces JO de Calgary? Je l'ai sous les yeux.
C'est le classement définitif?
Ouais.
Non, mais ça peut te donner peut-être un joli quiz, non, ça?
Exactement. Ouais, ouais. Alors, essayez de deviner.
Je dirais l'URSS.
Exactement. Bon, bah voilà, le quiz est terminé. Merci, au revoir.
J'ai été écrasé.
Alors, on va essayer de trouver les autres, quand même.
Les États-Unis?
Les États-Unis arrivent que 9e.
La Norvège?
La Norvège n'est même pas... pas classé dans
l'Allemagne de l'Est.
11 premiers en tout cas.
L'Allemagne de l'Est.
L'Allemagne de l'Est est deuxième.
Ouais, je t'écrase encore.
Ouais. T'as gagné un deuxième, Nico.
J'imagine que c'est pas l'Égypte.
Et bah figure-toi qu'ils sont. Non, c'est l'Égypte qui est première. Ouais, non, c'est pas du tout l'Union soviétique autant pour moi.
Tu m'écrases.
Non. Non. Il y a plein de nations qui sont très fortes au jeu d'hiver. Allez-y.
La Suisse
est troisième. Bravo.
Ah, quand même. Bravo. Ah.
Alors,
la Grande-Bretagne.
Lituanie.
Peut-être. Non. Lituanie non plus.
Non.
Bah, pensez, je sais pas, au
la
pays.
La Suède.
Ah, voilà, quand même. La Suède, ils sont cinquième.
Ah, Zlatan.
Ils avaient Zlatan dans toutes les équipes.
Ah, ouais, c'est pour ça qu'ils ont.
La Finlande.
La Finlande est quatrième devant.
Ah, ouais.
Ah, toi là, tu fais plus trop le malin. Fais ton tricot, toi, Younes.
Attends, je finis ton Bermuda.
Alors, à quelle place arrive la France?
La France, ils sont un peu nuls.
16e.
Je dirais 11e, moi.
11e.
Non, c'est vrai?
Oui.
Non,
ils sont 11e. Si, ils sont 11e.
Ah, oui, juste derrière l'Italie. Il m'a battu à plate couture.
Une médaille d'or et une médaille de bronze. Donc, c'est quand même pas terrible, quoi.
Ah, l'Italie est juste après. Si je peux me permettre, c'est pas mal, mais pas top.
L'Italie, ils ont deux médailles d'or quand même. Une médaille d'argent, deux médailles de bronze.
Ah, oui, donc quelle discipline?
Je sais pas.
Le football,
je pourrais pas te le dire. mais l'Italie, ils sont bons dans les sports. Les sports
oui, mais bien sûr.
Alors, à titre de comparaison, l'Union soviétique, qui est première du classement, a quand même 11 médailles d'or, 9 d'argent, 9 de bronze. Bon, ils nous éclatent un peu, hein, on peut dire. Alors, maintenant, pour conclure définitivement ce podcast, on va parler de l'après Calgary 88 pour cette équipe de bobsleigh de la Jamaïque, parce qu'en fait, l'aventure ne s'arrête pas là.
Bah oui.
On a l'impression que ça s'arrête là quand on regarde le film.
Bah, ils sont presque toujours.
Non, mais t'énerves pas, Mickaël, par contre.
Si, ça m'agace.
Ah oui, je vois
non,
ça.
Ils sont presque toujours après au JO.
Exactement.
Au JO, ouais.
Alors, Fitch devient président de la Fédération jamaïcaine de bobsleigh.
Ouais, donc il gère tout ça maintenant. Ouais.
En 92, où se passent les JO?
Et bah, forcément.
À Albertville.
À Albertville, bah, exactement. Oui. Alors, au bob à 2, la Jamaïque a deux équipes. Pas qu'une. Composé de Devon Harris et un petit nouveau qui s'appelle Ricky McIntosh. Et on dirait un faux nom. Tu penses à quoi, toi?
J'ai pensé en premier à Ricky Martin. Qui avait un compte Tinder, ouais, un truc dans le genre. Ouais, sûr. C'est
ça, ouais. Ouais, on dirait un vieux joueur inventé, tu sais, dans PES ou dans FIFA.
Ah oui, t'as raison. Vrai, ouais. T'as raison.
Et en fait, quand tu te faisais tes équipes, ouais.
Il y a une autre équipe. Il y a une autre équipe, ce qui est composée des frères Stokes, en fait, tout simplement. Okay. Les mêmes, en fait, on reprend un peu les mêmes de l'année d'avant. Et ils finissent 35e sur 36.
Ce qui est pas mal,
mais pas top. Et ensuite, ils ont une équipe à 4 qui est composée de Dudley Stokes, Ricky McIntosh, le fameux,
oui.
Michael White et Chris Stokes encore, et ils finissent 24e, donc sur 26. Donc au final, c'est pas génial, mais ils ont l'air d'avoir fini au moins les 4 manches, ce qui est pas mal.
Ouais.
Ouais, mais ils disent, hein, de toute façon, et dans le film, et d'ailleurs dans la réalité, qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter là. Enfin, dans le film, non, justement, mais dans la réalité, ils ne pouvaient pas s'arrêter là. Oui, c'était exactement le début de quelque chose.
Ouais, et il y a une apogée, ouais, quand même, de l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque. En 94, la Lillehammer, donc 2 ans plus tard, ouais, en Norvège, où l'équipe finit... pardon. Oh, putain, merde, j'ai pris les notes en anglais. Fait
chier. Oh, merde.
Alors, au bob à deux, en fait, Dudley Stokes et Wayne Thomas, qui est un nouveau, sont disqualifiés parce qu'ils ont un bob trop lourd, qui n'est pas réglementaire.
Ah, ça recolle un petit peu.
Exactement.
Avec la fiction.
Avec l'histoire du coach.
Et le coach... voilà, le coach qui...
Enfin, pour le coup, oui.
Oui.
Et magnifique, au bob à quatre, l'équipe se classe 10e sur une course et ils sont devant les Italiens, notamment le médaillé de bronze italien qui a gagné une médaille de bronze au bob à 2. Et ils sont devant une des équipes nationales suisses, apparemment. Donc ils cartonnent à Lillehammer, effectivement, ils font des super JO.
Et qu'est-ce qu'il en est de Pyeongchang?
Alors, bonne question, ah, effectivement. Oui. Alors, vous savez autant que moi, non, vous avez vu un peu l'actualité.
On a vu l'actualité, ouais, il y a 2 jours de l'enregistrement. On a pu voir qu'une équipe féminine, elle, sera présente.
Une équipe féminine jamaïcaine
sera présente. Ouais. Donc,
Il faudra donc suivre et encourager Jasmine Fentalor Victorian.
On les encourage déjà.
Ah, Flucha Segri, bon, j'ai un accent du tonnerre.
Ah, oui,
et
ouais.
Carrie Russell.
Très bien, Russell.
Alors, alors, il faudra se lever mardi 13 à 2h30 du matin pour voir. Enfin, je sais pas, j'ai une connerie, mais il va falloir sûrement
se lever. Voilà.
Alors, vous avez vu
ne pas se coucher.
Vous avez vu que.
Et l'équipe
pour la première fois de l'histoire. Exactement, c'est
ouais,
ce que tu voulais dire, non?
Ouais. Non, j'allais juste parler de l'équipe masculine.
Ah oui, bah vas-y.
Qui, elle, a loupé la qualification à une place. Donc, nous ne verrons pas une équipe masculine
de Jamaïque.
De Jamaïque en Corée. En Corée,
ouais. Voilà. Ouais. Par contre, je crois que c'est historique. Une équipe africaine de bobsleigh vient de se qualifier pour les JO, l'équipe du Nigeria, en bobsleigh féminin également.
Ok.
Et je crois que c'est la première fois, alors peut-être à vérifier, j'ai pas regardé, mais
qu'une équipe africaine participe
aux JO d'hiver.
Aux JO.
Ah oui, incroyable.
C'est bien possible. Et donc en bobsleigh, comme quoi le bobsleigh, c'est
la révolution. Peut-être qu'on va avoir un remake de Walt Disney avec une équipe féminine.
Du Nigeria.
Ouais. Avec Rasta Rocket 2.
Exactement.
Bah oui. Si une chaîne américaine se décide de suivre l'événement,
il y aura plus le gros entraîneur qui triche.
Ah oui, t'avais un truc à dire sur lui, non?
Bah ouais.
Non, mais enfin moi,
il est mort, c'est ça?
Non, mais c'est parce qu'on a parlé de la mort de Fitch.
Ah oui.
Mais
oui.
L'entraîneur, le grand entraîneur Amulet, le comédien qui s'appelle John Candy.
Ouais.
Voilà, qui bon.
Qui
mangeait beaucoup de sucre aussi parce qu'il
est canadien.
Il est mort 1 an après la sortie du film.
Ah, c'est vrai.
Et il y a eu David Bowie, il y a eu Prince, il y a eu Johnny Hallyday. Mais enfin, John Candy, moi, ça a été terrible.
Ça a été intéressant.
C'était dévasté.
Mais t'as des posters de lui.
J'ai des posters géants, ouais.
Il joue dans quoi, d'ailleurs, à part Rasta Rocket?
Alors, il a joué dans beaucoup de films, contrairement aux autres, parce que j'ai
l'esprit. Ouais.
Contrairement aux autres protagonistes et comédiens de Rasta Rocket, lui était un acteur...
Un humoriste célèbre et un acteur assez connu.
Assez connu, contrairement à tout le reste de l'équipe du film, notamment le réalisateur qui, en plus de Rasta Rocket, le réalisateur a réalisé Ninja Kids 3.
Ouais, c'est mon préféré, les trois.
Excellent.
Ah, de loin, j'avais oublié que tu adorais la saga Ninja Kids.
Ah oui, moi je suis très très fan, je l'ai en Blu-ray.
Ouais.
Et d'ailleurs, il y a un des. Le héros qui s'appelle dans le film de Rice Bannock, je crois, c'est son nom.
Ouais.
C'est un comédien qui joue dans Oz.
Et
dans la première saison de Oz.
Tout à fait. Ah bon, ouais. Léon, le comédien qui s'appelle Léon.
Je crois,
Leon,
ouais, exactement.
Il joue dans un clip aussi de.
Ah bah c'est une figure de second rôle aux États-Unis. Ouais, ouais, on le voit très souvent.
Bannock, ouais.
Voilà, bah messieurs, écoutez, j'étais très content de vous accueillir. C'était très chouette de passer ce moment avec vous.
Merci. Et voilà. D'avoir ouvert tes bras.
Et bah de rien. J'espère qu'on va se retrouver prochainement pour parler d'un autre sujet. Autour du sport.
J'espère qu'on va parler de la bagarre.
On va parler de sport. On va peut-être parler un petit peu de foot aussi prochainement pour faire plaisir.
Avant que tu finisses ton, avec tu recommences ton deuxième Bermuda, je te rappelle que ma couleur c'est le bleu, hein, Younes.
Ah, c'est un fan de bleu.
Bah tu dois te faire au rouge.
Ah bah moi je le veux bien le Bermuda rouge parce que moi j'aime bien le rouge.
Bah tu vois, bah ce Bermuda ne sera pas pour toi Olivier. Désolé.
Voilà. Comme cette table pleine de sang hein, quand même. Qui,
tout à fait.
C'est horrible. Bon.
Alors on va se quitter sur la dernière séquence. Alors ça va peut-être paraître un peu long sur la dernière séquence que j'ai extraite en intégralité juste pour la beauté de la musique de Hans Zimmer et le côté émotionnel que ça véhicule.
Doris, t'es mort ?
Non, man. Je suis pas mort. Il faut finir la course.
Ça va?
Messieurs, une photo, s'il vous plaît.